front page of the Gina. There are squad crew, we are taking over, 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 over. It is. If I don't bump it on me face as I can, if I don't jump up by the cover, that's wrong. This is my door alongside the band.
Sister, why you babysat? Not just living fat, she ain't got a baby back. I heard this where we gotta see, but live or die. I seen the nigga sky half a block, cause he thought his shit was fly. I let you ride if you bustin', I let you die if you bluffin', cause to die just the whole prize of nothing. You fuckin' with all robbers and broads, bombers who want dramas. Word to my daddy gone mama, let me find the next mother, father. Disrespect Fat Joe, the dog got her. And I'ma have to chicken nigga like Sean Carter. What's wrong, bada? Punish your peel, your banana, steal your manana, leave your mama covered with a white gamma. That's right, I'ma be there with my guns, throwing the spot. I ain't got no hair on my tongue. This where I'm from, we don't only talk the talk. We walk the walk, be X, baby, New York, New York.
If I don't bump in on me, be as I can. If I don't jump up, find it, cover that strong. It's a fan show, I'm going to ban down.
Yeah.
Tell them.
What's about fun?
Bang down, diddly, diddly.
Rude boy, salute with your gun.
Bang down, diddly, diddly. If I don't bump in on me face, I can. If I don't jump up, find it, cover that strong. It's a fan show, I'm going to ban down.
Yeah.
Tell them.
What's about fun?
Bang down, diddly, diddly.
Rude boy, salute with your gun.
Bang down, diddly, diddly. Diddly, diddly.
Merci de nous rappeler. Ciao.
Dos de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdo.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. C'est la philanthropie de l'ouvrier charpentier. Aujourd'hui, une émission spéciale, en prise directe avec la réalité et les informations. Johnny Hallyday part en Suisse. Non, excusez-moi, je me suis trompé de radio. C'est parce que je fais une émission plus tard sur France Inter. Non, aujourd'hui, on va plutôt parler de logiciels libres. Alors déjà, dans le logiciel libre, il y a le mot libre, alors c'est déjà pas mal. Quoique, ça serait intéressant de définir, puisque visiblement, tout le monde n'a pas les mêmes définitions. Mais avant de faire ça, on va peut-être présenter nos invités, qui vont avoir la joie et l'honneur de se présenter eux-mêmes.
Ben bonjour, Frédéric Couchet, donc je suis le délégué général de l'April, qui est l'une des associations qui fait la promotion et la défense du logiciel libre depuis 10 ans dans l'espace francophone.
Donc Emmanuel Charpentier.
Bien joué, c'est la philanthropie de l'héroïe et Charpentier, pour une fois on en a pris un.
Oui, mais bon, vous ne le saviez pas, hein, c'est un peu le hasard.
Ah, ouais.
Donc je suis informaticien et membre de l'April.
D'accord.
Donc Luc Fievet, je ne fais pas partie de l'April, je m'intéresse au logiciel libre sans être informaticien. Et voilà, je devrais bientôt faire une émission sur Radio Libertaire, où on devrait reparler de ces sujets-là.
Voilà, donc en effet, Luc est venu nous voir... secrétariat, voir un peu comment on pourrait faire justement une émission sur ce thème, parce que c'est vrai que c'est un thème qui est assez important, vu les brevets qu'on pose sur tout et n'importe quoi en ce moment, c'est quand même plutôt intéressant de parler de logiciels libres et de tout ce qui peut tourner autour. Donc en effet, on aura la chance de se voir, je crois que c'est une fois par mois, de faire une émission sur ce thème. Alors justement, avant de commencer l'émission, ou du moins en commençant l'émission, on va peut-être faire quelques définitions, parce que j'ai eu du mal à m'y retrouver un petit peu, parce qu'il y a alors déjà, il y a le mot free qui a un double sens. Il y a gratuit, il y a libre, il y a domaine public, open source, shareware, free. Bon, il y a quelqu'un qui peut nous faire tout de suite une petite définition, mais très courte. De toute façon, on va revenir dessus pendant l'émission, puisqu'on peut-être en avançant qu'on verra les distinctions un peu plus fines.
Bah, très court, en fait, le mot libre dans le logiciel libre ne fait pas référence à gratuité, il fait référence simplement à quatre libertés. C'est-à-dire qu'un utilisateur qui a une copie d'un logiciel libre a quatre libertés. Celle de l'utiliser librement, par exemple sur son poste de travail, chez lui.
Comme les autres logiciels.
Non, les autres logiciels...
On n'a même pas le droit de les utiliser.
L'échelle propriétaire, vous avez un droit qui est limité d'utilisation, par exemple sur un poste, mais vous n'avez pas le droit de l'utiliser forcément sur deux postes. Dans le cas du logiciel libre, le droit d'utilisation est illimité. Ensuite, vous avez le droit de faire des copies. Donc des copies licites à des amis, par exemple, à des collègues de ce logiciel libre. Vous avez le droit de l'étudier, parce qu'en fait, le logiciel libre vient sous ces deux formes, c'est-à-dire la forme exécutable par l'ordinateur, comme les logiciels propriétaires, mais aussi sous sa forme de code source. Ce qu'on appelle le code source, en fait, c'est la recette de cuisine. C'est l'outil sur lequel travaille l'informaticien. Donc l'utilisateur peut étudier le logiciel et peut, dernière liberté, le modifier. Et en fait, ces quatre libertés, utilisation, étude, redistribution, modification, font les quatre libertés du logiciel libre. Et ça s'oppose au logiciel propriétaire, où dans le cas du logiciel propriétaire, on a à peine la liberté d'utilisation. Et on a deux modèles de développement très différents. Dans le cas du logiciel propriétaire, il y a une entreprise qui contrôle le développement du logiciel. Dans le cas du logiciel libre, on a une communauté à la fois d'utilisateurs, de bénévoles, de développeurs qui travaillent pour des entreprises ou des institutions, qui travaillent de manière coopérative pour produire un logiciel, chacun rajoutant sa pierre à l'édifice.
Nous avons donc fini l'émission, c'était la philanthropie de l'ouvrier Charpentier, il vient de nous faire un résumé magnifique, peut-être un peu rapide, on va reprendre des choses bien
entendu. On a une heure et demie pour revenir dessus.
Parce que là, ça a été vraiment rapide et dense, avec le code source. Alors, est-ce qu'on peut faire déjà des distinctions sur, par exemple, le freeware? On entend toujours parler du freeware. Le freeware, si tu donnes les définitions, il y a des choses qui se rapprochent. Si on part, en effet, des quatre principes, c'est donc l'utilisation... La connaissance interne, la possibilité de modifier, la possibilité de distribuer. Voilà. Si on prend le freeware, c'est quoi comme différence?
C'est un problème dans la langue anglaise. En grande partie, c'est le mot free qui est utilisé avec un double sens, de gratuité et de liberté. Et Stallman, il le répète assez souvent, en fait, il préfère le mot français libre, qui lui n'a pas ce double sens. Freeware, à l'origine, c'est juste une gratuité de prix. Il n'y a pas du tout de liberté qui va avec. On a même la redistribution d'un freeware peut être limitée. C'est juste, on vous donne quelque chose gratuitement, vous pouvez l'utiliser gratuitement.
Voilà, oui, on l'utilise souvent comme pour faire des tests, c'est bien.
Le shareware va aussi dans ce sens.
Oui, alors le shareware, c'est du partage.
C'est une sorte de freeware, mais là aussi, on vous permet d'utiliser quelque chose pendant un certain temps, par exemple, ou un certain nombre de fois.
D'accord.
C'est plutôt un appel d'offres. C'est un produit d'appel, une tête de gondole dans un supermarché. C'est quelque chose de commercial vraiment. On essaye de vous appâter.
D'accord. Et si on parle du domaine public, parce qu'il y a aussi des éléments qui tombent dans le domaine public. Bon, on connaît très très bien en littérature, les éditeurs sont très très forts là-dessus pour pouvoir sortir des livres à très très bas prix parce qu'ils prennent du domaine public pour être tranquilles. Alors, quel est le rapport avec le domaine public?
Le domaine public, juridiquement, il faut voir quelque chose, c'est que c'est très précis. C'est 70 ans après la mort de l'auteur, notamment en littérature, dans le droit littéraire, propriété littéraire artistique. Donc, des logiciels qui sont dans le domaine public peuvent être considérés comme des logiciels libres, parce qu'effectivement, on a les quatre libertés si on a le code source. Par contre, aujourd'hui, dans le monde du logiciel, comme c'est quelque chose qui est relativement récent, il y a très peu de logiciels qui sont dans le domaine public. Il y a très peu d'auteurs, en fait.
Oui, 70 ans, ça fait vraiment voilà. très long. Hein.
Voilà. Donc, c'est une petite partie, effectivement, potentielle du logiciel libre. Mais quand vous parlez de domaine public, ça fait référence au droit d'auteur. Ce qui est peut-être important de préciser, c'est que le logiciel libre s'appuie sur le droit d'auteur pour garantir les quatre libertés aux utilisateurs. Là où le logiciel propriétaire s'appuie pour le droit d'auteur pour restreindre les libertés des utilisateurs. C'est deux utilisations différentes du droit d'auteur. Et ça, c'est important de préciser, notamment par rapport au brevet dont vous parliez tout à l'heure, où c'est encore une autre forme de gestion de droit qui s'applique là à des idées, là où le droit d'auteur s'applique à l'expression des idées. Mais je pense qu'on pourra y revenir, parce que c'est à mon avis très important de faire la différence entre l'expression des idées, la protection de l'expression des idées et la protection des idées en tant que telles.
Le domaine public, quelque part, bah, c'est mort.
Bah oui.
Il n'y a plus rien qui tombe dedans, il n'y a plus rien qui va tomber dedans. Enfin, tout le monde est en train de l'étendre de partout, de rajouter des devoirs dessus, enfin, des règles. C'est mort. Il n'y a plus rien, on peut quasiment l'oublier.
Mais c'est en voie de disparition. Alors, ça serait intéressant quand même de faire peut-être un petit historique, si quelqu'un peut nous le faire, parce qu'il y a une personne qui viendrait de citer Richard Stallman. Alors, c'est en gros 1980-1983, donc j'aimerais bien qu'on en parle un peu plus longtemps, parce qu'il y a quand même, on va peut-être voir qu'il y a quand même deux idéologies. Il y a celle de Richard Stallman et il y a celle de Linus Torvald, qui sont quand même deux idées totalement différentes. Alors, on pourrait peut-être parler d'abord du premier, puisque c'est quand même historiquement un élément très important. Alors, qui peut...
Richard Stallman, c'est un chercheur donc, dans un laboratoire d'informatique aux États-Unis, le MIT. Il faut bien comprendre qu'avant les années 80, dans les années 70, les chercheurs avaient l'habitude d'échanger le code, de travailler sur le code. C'était quelque chose qui était naturel, parce que les machines... La recette de cuisine,
voilà.
le plan du logiciel. Et avant les années 80, en fait, les machines, les ordinateurs étaient livrés avec la recette de cuisine des logiciels, et les chercheurs avaient l'habitude de travailler dessus, s'échanger, l'améliorer, etc. Et à partir des années 80 et l'arrivée des logiciels propriétaires, en fait, il a commencé à avoir une raréfaction de cette pratique. Et en opposition, Richard Stallman a décidé de lancer un projet de système d'exploitation, c'est-à-dire en fait des logiciels qui permettent de répondre à tous les usages pour un usager, que ce soit pour jouer, pour faire de l'Internet, pour faire de la programmation, mais sous un modèle logiciel libre, donc avec les quatre libertés. Et ce qui est essentiel dans la démarche de Richard Stallman est le fait qu'il soit chercheur, qu'il travaille dans un laboratoire de recherche, est important là-dedans, c'est qu'il voit le logiciel libre, il voit le logiciel comme une connaissance qui doit être partagée librement. Et donc, en fait, les quatre libertés du logiciel, c'est simplement les quatre libertés essentielles dans un monde de partage de la connaissance, mais appliquées au domaine du logiciel. Donc, avant tout, la démarche de Richard Stallman est une démarche philosophique, quelque part, qui est liée au siècle des Lumières, etc. Ce n'est pas une démarche technique. Là où Linus Torvalds, lui, a plutôt une démarche technique de c'est bien d'avoir accès au code source parce que ça permet de corriger les erreurs de programmation plus rapidement, ça permet de travailler plus efficacement à plusieurs, etc. La démarche de Richard Stallman est avant tout une démarche philosophique, et quand d'ailleurs il définit le logiciel libre en France, donc je rappelle que c'est un Américain, il emploie trois mots: liberté, égalité, fraternité. Liberté.
C'est un grand républicain.
Exactement. Liberté parce qu'il y a les quatre libertés que j'ai citées tout à l'heure. Égalité parce que tous les utilisateurs ont les mêmes droits. Que vous soyez un simple utilisateur, une grande entreprise, une institution, vous avez les mêmes droits par rapport à ces quatre libertés du logiciel. Et fraternité parce que le but, c'est de produire quelque chose en commun de façon coopérative sans exclure personne. Et donc, c'est vraiment une démarche philosophique à la base qui définit le processus qu'a lancé Richard Stallman. Mais par effet de bord technique que pourra expliquer Emmanuel Charpentier, il y a des gens qui utilise du logiciel libre avant tout pour ses caractéristiques techniques et ses avantages techniques. Mais ce sont deux démarches différentes.
Le libre et l'open source. C'est souvent les deux termes qu'on utilise qui sont légèrement en opposition, même si pourtant, à la base, c'est le même point de départ.
Oui. Donc le libre, on voit. L'open source, vous pouvez redéfinir.
C'est
là, on a vraiment l'impression de rien comprendre.
Alors, c'est les mêmes libertés. C'est vraiment les mêmes libertés, mais ce n'est pas d'un point de vue philosophique ou politique. C'est vraiment d'un point de vue d'utilitarisme, dans le sens où l'open source va dire qu'on fait du meilleur code, on fait des meilleurs programmes grâce à cette... c'est une méthode de travail. Le logiciel libre, c'est politique, l'open source, c'est une méthode de travail.
Oui, mais en fin de compte, quand on va télécharger, on récupère des logiciels, on ne voit pas trop la différence.
Vous ?
Les logiciels en tant que tels, ce sont les mêmes. Après, c'est les motivations qui sont derrière les gens qui produisent le logiciel qui sont différentes. C'est ce qui est bien d'ailleurs dans le logiciel libre, et on le voit dans le domaine politique aujourd'hui. À peu près tous les partis soutiennent le logiciel libre, mais pour des raisons différentes, en fait. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et dans la démarche entre logiciel libre et open source, derrière, effectivement, ce sont les mêmes outils. Donc, pour l'utilisateur, à la limite, ils s'en préoccupent pas de cette notion de terminologie. Mais par contre, ça peut être important de savoir que dans un cas, il y a une démarche qui est avant tout basée sur une démarche technique, de meilleure qualité de code, etc. Et d'un autre côté, il y a une démarche philosophique de partage de la connaissance. Moi, je pense que quand on adopte le logiciel libre pour des raisons avant tout philosophiques et éthiques, on reste au logiciel libre plus que si on le choisit uniquement pour des raisons de coût ou pour des raisons techniques. Parce que si on prend les raisons de coût, aujourd'hui, Microsoft peut très bien demain, par exemple, proposer à une école de l'équiper complètement gratuitement au logiciel propriétaire. Pourtant, ce sont des logiciels propriétaires. Les élèves n'auront pas les libertés associées au logiciel libre, donc avec les avantages éducatifs, etc. Alors que peut-être qu'en payant, par exemple, une distribution de logiciels libres, une entreprise qui fait du logiciel libre, qui équiperait cette école à coût pas forcément très élevé, mais par contre là, il y aurait l'avantage éthique de faire le choix du logiciel libre. C'est pour ça que la notion de gratuité n'est pas dans la définition du logiciel libre, qu'il faut faire très attention à ça. Donc moi, je préfère effectivement, mais c'est à titre personnel, essayer de convaincre les gens qu'il faut faire le choix du logiciel libre pour des raisons éthiques, pour des raisons de société quelque part. C'est un modèle de société qu'on défend, un modèle de société coopératif où les gens produisent ensemble, qui peut aujourd'hui donner naissance à d'autres projets comme Wikipédia, qui est une encyclopédie en ligne, plutôt que simplement réduire le logiciel libre à un aspect technique. Mais l'avantage, c'est qu'on peut convaincre des publics différents avec des explications différentes. On peut convaincre une entreprise simplement en se basant sur les arguments de l'open source. C'est-à-dire que c'est du code qui va être audité beaucoup plus facilement parce qu'on a le code source. Vous allez pouvoir voir, en point de vue de sécurité, comment il fonctionne, donc vous aurez plus confiance en lui. Vous pourrez juste rajouter ce que vous avez besoin, etc., etc. Et puis, vous allez pouvoir convaincre d'autres personnes, peut-être des enseignants, peut-être du grand public, sur les aspects éthiques et philosophiques du logiciel libre. C'est pour ça que ça correspond finalement aujourd'hui le logiciel libre à tout le monde, même si derrière, il y a des motivations qui sont différentes.
Tu as parlé de Microsoft, mais Microsoft a eu cette pratique de logiciel à très bas prix ou gratuit pendant très longtemps dans le cadre des centres de formation, par exemple, quand on voit Multiplan, qui a été les premiers Word, qui sont des logiciels les plus utilisés actuellement dans ce domaine-là. Quand on voit Multiplan et Word, c'est vrai que dans les centres de formation, type Éducation nationale et n'importe quel autre centre de formation, les tarifs étaient tellement faibles que tout le monde se jetait dessus, alors qu'à la même époque, il y avait quand même d'autres produits qui étaient particulièrement performants et très chers. Donc c'était plutôt du dumping économique que commercial qu'une ouverture.
Tout à fait. Et ce dumping est possible parce que Microsoft, aujourd'hui, en plus, a une situation de monopole. Une situation de monopole, en plus, basée sur l'immatériel. C'est-à-dire le fait de donner à bas coût, même gratuitement, du logiciel, ça ne lui coûte rien. Parce que ce qui coûte dans le développement de logiciel, c'est la création du premier objet, c'est de l'immatériel. Ensuite, c'est juste de la copie. À la marge, les coûts de reproduction d'un objet immatériel sont nuls par rapport à un objet matériel. Construire une voiture, un exemplaire d'une voiture, ça coûte cher, mais construire 1000 voitures, ça coûte encore très cher. Par contre, construire un exemplaire d'un logiciel, ça coûte de l'argent, mais construire 1000 exemplaires du même logiciel, c'est juste de la copie numérique. Et aujourd'hui, l'un des principaux problèmes, effectivement, du logiciel libre pour le grand public, pour l'utilisateur final, c'est le fait qu'il y ait un monopole de fait sur le poste de travail de Microsoft et que ce soit très difficile de le faire bouger. Je vais prendre simplement un exemple. Si aujourd'hui, on veut acheter un ordinateur, on veut installer du logiciel libre dessus, on va au magasin du coin, on peut aller rue Montgalella ou dans un grand magasin, peu importe quoi. Mais dans la plupart des cas, les PC qui sont vendus, les ordinateurs qui sont vendus, sont vendus équipés, pré-équipés de Microsoft Windows. Et il n'y a pas l'affichage des prix séparé et vous ne pouvez pas acheter un seul des composants. Donc si vous voulez demain acheter un ordinateur, vous avez Microsoft Windows qui est préinstallé. Donc la personne de base ne va pas se poser de question de savoir est-ce qu'il existe autre chose ou pas. J'ai déjà un système d'exploitation qui tourne, donc je vais le garder. Ok, donc là déjà la personne ne se pose pas de questions. Mais la personne qui veut installer du logiciel libre sur cet ordinateur, elle est obligée d'acheter l'ordinateur avec Microsoft Windows. Donc elle paye une licence Microsoft Windows. Elle ne sait même pas combien parce qu'il n'y a pas l'affichage séparé des prix. Et si elle veut obtenir le remboursement, c'est très très compliqué.
Voire impossible.
À tel point qu'aujourd'hui, enfin hier, l'UFC Que Choisir, donc l'Union Fédérale des Consommateurs, a assigné en justice, je crois que c'est HP qui est un constructeur informatique, Darty qui est un magasin, et puis une troisième structure, contre cette vente liée qui fait vente ordinateur et logiciel. Et ça, c'est l'un des points les plus problématiques aujourd'hui, c'est que quand on achète un ordinateur, le grand public n'a pas le choix, il ne sait pas qu'il a le choix en plus. Donc nous, ce qu'on demande dans les années à venir, et ça aurait été bien pour Noël là, mais au moins pour le Noël prochain, c'est que les gens qui vont acheter un ordinateur demain dans un grand magasin, ils puissent avoir un affichage séparé des prix, c'est-à-dire combien coûte le matériel, combien coûte le logiciel, et puis avoir la possibilité de se faire installer un autre logiciel que Windows,
ou aucun
logiciel éventuellement, ou un système libre. Donc avoir le choix, c'est ce qu'on demande. Or aujourd'hui, l'utilisateur n'a pas le choix. Et c'est vrai que dans l'éducation nationale, c'est pareil, on forme des gens à un outil spécifique Microsoft Word, alors qu'on devrait former des gens à un outil générique qui est un traitement de texte. Parce que si on forme les gens à un outil spécifique, on leur donne des habitudes par rapport à cet outil spécifique, on ne forme pas les gens à l'informatique. ce ne sont pas des gens qui seront autonomes à l'informatique. Donc nous, ce qu'on dit, il faut former des gens à des outils génériques et si possible faire le choix du logiciel libre parce qu'il y a des avantages de coût. Et puis le logiciel libre, c'est un logiciel républicain, comme vous disiez tout à l'heure. Liberté, égalité, fraternité.
Là, en fait, il y en a certains qui appellent ça, c'est la taxe Microsoft. Parce que quelque part, dans le prix d'un ordinateur actuellement, les ordinateurs en public, ça va être 20% du prix qui va être dans les différents coûts de licence, qui est complètement caché. Même la TVA, elle a indiqué, mais là, vous avez un coût qui est caché, qu'on ne peut pas voir, et même si on l'achète, qu'on l'enlève plus tard, effectivement, aucun moyen de se le faire rembourser, on l'a dans le baba.
Oui. Ça s'appelle pas une taxe, ça s'appelle la raquette, là.
C'est ça. Bah,
justement,
ça fait la même chose.
Vous employez ce terme, donc juste référencer un site qui s'appelle racketticiel.info, c'est-à-dire que c'est des gens dont on fait partie, mais avec d'autres, qui ont lancé un site, une pétition, justement, pour demander de mettre fin à cette vente liée. Effectivement, le terme qui est employé, c'est raquette. Donc le terme, c'est raquette, le site internet, c'est racketticiel.info. Donc il y a une pétition qui a déjà été signée par 15 000 personnes. Et je pense qu'il est important de signer cette pétition, justement parce que l'UFC Que Choisir vient de lancer cette assignation pour donner encore plus de poids à l'assignation, pour montrer qu'il y a des gens qui veulent avoir le choix de leur système d'exploitation quand ils vont acheter un ordinateur dans le commerce.
Il faut savoir que ça remonte loin. Hein. Quelque part, toutes les pratiques monopolistiques de Microsoft et les accusations, les assignations en justice qu'ils ont eues sont en partie liées à ce genre de problème. Parce qu'ils ont fait des accords en sous-main avec les constructeurs de matériel pour que les matériels ne viennent qu'avec leur système d'exploitation. Et ils ont vraiment, c'est vraiment un gros travail que Microsoft fait constamment avec les plus gros constructeurs pour les empêcher de fournir leur matériel sans Windows. C'est quelque chose qui va très loin.
C'est un peu comme si on achetait une chaîne Hi-Fi, par exemple, et qui était vendue avec, sans nous dire combien ça nous coûte, le CD de la Starac, d'Alida, en tout packagé, quoi. Et qu'on pourrait
c'est
pas
bien,
faire.
Ça.
Oui, oui.
J'ai choisi deux artistes, deux noms différents, justement, pour éventuellement faire plaisir à quelqu'un, quoi. Mais voilà, c'est de la vente liée, c'est complètement illégal. Le ministre du Commerce, je crois, c'est Christian Jacob. Enfin, je me souviens plus. En tout cas, Christian Jacob, qui est ministre il y a un an, avait clairement répondu à une question d'un député en disant que c'était illégal. Mais finalement, les structures institutionnels qui sont censés faire appliquer la loi, comme la DGCCRF, donc la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes, finalement, aujourd'hui, ils ne font pas grand-chose. Ils font des tables rondes, je dirais, pour essayer de trouver une solution, mais concrètement, sur le terrain, ils ne font pas grand-chose. C'est pour ça que c'est très important de soutenir la démarche de l'UFC, qui assigne ces gens-là en justice, pour que demain, on ait le choix d'acheter son système d'exploitation et que ça mette fin, en fait, à un monopole de fait. Et que ça recrée une vraie concurrence dans le marché de l'informatique, qui est un marché qui est à la base un marché concurrentiel, avec quelque chose qui est, à mon avis, que les gens adopteront très facilement, qui est le logiciel libre, si simplement ils en ont connaissance. C'est ça la difficulté, c'est d'avoir connaissance du logiciel libre. Or aujourd'hui, quand on va dans un grand magasin, on n'a même pas la connaissance du logiciel libre. Le vendeur ne fait même pas son travail d'information.
Je propose qu'on se mette une petite musique et on revient. Donc c'est la philanthropie de l'ouvrier charpentier aujourd'hui autour du logiciel libre. Si vous voulez nous joindre, le 01 43 71 89 40.
Je me réveille avec contrat, je branche la cafetière électrique. Je me rue dans la salle de bain et je deviens paralytique. Sous la douche, il y a un éléphant qui me regarde tendrement. Je balbutie en rougissant d'un air gaga probablement. Mais comment donc êtes-vous entré puisque la porte était fermée? Il me sourit et il me dit: t'occupe pas, donne-moi du nougat. T'occupe pas, donne-moi du nougat. Je bondis sur le téléphone, je fais le 17 et je tonne. J'habite au 1 de la rue Didouche, y'a un éléphant dans ma douche. Le flic me dit: vas-y toi-même, ça résoudra tous tes problèmes. Déboussolé, je redéboule là où j'ai laissé ce maboule. La douche est vide, il est parti. Le voilà couché dans mon lit. Il me regarde et il me dit: écroule-toi, donne-moi du nougat. Écroule-toi, donne-moi du nougat. Chercher, c'est dans la cuisine à côté. J'y vais et puis je change de cap. J'enfile un manteau et une cape.
pour recouvrir ma nudité. Et je m'enfuis dans l'escalier, je traverse la ville à pied, en cavalant comme une damnée.
J'arrive enfin chez un copain qui va m'accueillir dans son sein. Il ouvre la porte et il me dit: assieds-toi, donne-moi du nougat. Assieds-toi, donne-moi du nougat. J'ai galopé chez Marina, qui est plus qu'une sœur pour moi. Elle m'a tout de suite donné à boire, je lui ai raconté l'histoire. Elle a dit: alors t'as fait quoi? Moi je lui ai donné le nougat. Là-dessus je vais me faire un pétard et partir pour monter les marches. Elle me fait: je viens avec toi, moi aussi je veux du nougat. 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 Moi aussi je veux du nougat.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. C'est la philanthropie de l'ouvrier charpentier. Aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre. Alors, il va falloir y aller vachement cool. Parce que moi, j'ai trouvé une illustration du logiciel libre qui me plaît, mais vraiment à 100%. Alors, visiblement, c'est Richard Stallman, mais je ne suis pas sûr, hein, Stallman. Selon le principe du libre, vous avez obtenu légalement une recette de cuisine par n'importe quel moyen. Vous avez le droit de redistribuer cette recette à qui vous voulez. Et vous pouvez la modifier puis la redistribuer comme il vous plaît. Ça, il paraît que c'est un parallèle avec le libre. Moi, la recette de cuisine, je la comprends vraiment bien. Ensuite, selon le principe du logiciel non libre, vous n'avez pas accès à la recette, mais uniquement au gâteau déjà fait. On remarque, c'est un peu ce qui se passe, hein, de plus en plus, hein, faut pas abuser. Regardez, essayez de trouver la recette du Coca-Cola. Vous ne l'avez pas, hein. Vous ne pouvez manger le gâteau que dans une seule cuisine et personne d'autre que vous ne peut le manger. Quand bien même la recette serait fournie avec le gâteau, toute copie ou modification seront interdites. Là, je trouve qu'on arrive peut-être à avoir un peu plus d'images. Le seul problème que je me pose, c'est que dans le cas du principe de la recette de cuisine libre, j'ai les capacités de comprendre et j'ai capacité de le faire. Dans le cas de l'informatique, j'ai l'impression que j'ai intérêt à prendre un produit tout fini, un peu comme une bagnole d'ailleurs, parce que c'est vrai que quand j'avais une 4L, j'arrivais encore à démonter les roues, à faire la vidange. Maintenant, avec une autre voiture, ça devient de plus en plus difficile. Donc j'ai l'impression que cette histoire de logiciel libre, c'est quand même franchement un truc de technicien, de pur et dur. Parce qu'il y a quelques années, il y a au moins 5 ans, on m'avait donné un CD. C'était totalement légal, hein, dessus il y avait Linux. Je l'ai mis dans mon micro-ordinateur, j'ai bien regardé l'écran pendant un quart d'heure, 20 minutes, une heure, j'ai pris le manuel. Dans le manuel, j'étais écroulé de rire parce qu'on me disait faut paramétrer telle carte, mais le mieux, c'est d'installer Windows, comme ça vous verrez le paramétrage et vous reprendrez le même. Donc, bon, j'ai pris le CD, je l'ai balancé, et puis voilà quoi. C'est un truc de spécialiste quand même, faut pas abuser. Ah ouais, ça y est, ils se mettent en colère, j'en étais sûr.
Ah non. Je suis pas en colère. Je vais laisser Emmanuel Charpentier répondre sur cette partie-là, mais je voudrais juste revenir sur l'analogie que vous faisiez avec la voiture. Juste pour expliquer un truc, c'est que aujourd'hui, si vous avez une voiture type propriétaire ou des composants propriétaires dont le secret de fabrication dépend que d'une seule entité, bah vous serez condamné pour faire réparer votre voiture à aller à tel garage spécialisé.
Ce qui est un peu le cas d'ailleurs.
Ce qui est un peu le cas, ce qui est de plus en plus le cas, mais c'est pas parce que c'est le cas, parce que c'est le généraliste qu'il faut trouver ça normal.
Oui, mais on a l'impression que c'est plus violent pour la voiture que pour le logiciel
voilà.
D'ailleurs.
Voilà. Mais par contre, si vous transposez ça au logiciel libre, c'est l'idée simplement de se dire qu'avec votre voiture, effectivement, vous pouvez réparer ce que vous pouvez réparer, donc changer les roues, etc., faire éventuellement votre vidange, mais pour le reste, vous pouvez vous adresser au garagiste que vous voulez. C'est-à-dire que vous n'êtes pas emprunt, enfin, vous n'êtes pas obligé de choisir tel garagiste pour faire réparer votre voiture qui va vous imposer des prix et qui, en plus, va vous faire des modifications que vous ne pourrez pas faire contrôler par un autre garagiste éventuellement si vous avez un doute. Il y a des gens qui font des fois contrôler leur voiture par deux personnes différentes parce qu'ils ont un doute. Et dans le cas du logiciel libre, c'est ça. C'est-à-dire que vous ne dépendez pas d'une entreprise pour faire évoluer ce logiciel, mais il est évident que la plupart des utilisateurs de base ne vont pas modifier eux-mêmes le logiciel. Par contre, là où dans le cas du logiciel propriétaire, on fait confiance à une seule entité pour faire évoluer le logiciel et corriger les erreurs de programmation, ce qu'on appelle les bugs. Dans le cas du logiciel libre, on fait confiance à une communauté globale dont l'intérêt est souvent cohérent avec l'utilisateur, parce que ce sont les premiers utilisateurs de leur logiciel. Donc ce n'est pas qu'une affaire de spécialiste d'un point de vue technique, d'un point de vue de développement.
Alors d'un point de vue utilisateur, parce que d'un point de vue utilisateur, moi mon CD, hein, j'ai toujours balancé. Hein.
Oui, bon, là, ce qu'on va espérer, c'est que c'était historique. Hein.
C'était historique, c'était pas. Oui, mais bon, 5 ans, c'est de la petite
histoire. En informatique, c'est énorme. Hein.
Ouais,
on
d'accord.
S'en rend pas compte comme ça, mais il y a
non,
des
mais ça dégoûte vite hein, quand même. Hein.
Mais bon, pour revenir à la cuisine, qui est vraiment une très bonne analogie, moi, j'aurais tendance à dire que je peux pas faire beaucoup de recettes de cuisine. Hein. Je suis pas un très bon cuisinier. Vous serez peut-être pas un très bon codeur, mais l'analogie se fait dans les deux sens.
On peut le voir comme ça, en effet.
Et puis, sur 5 ans, il faut voir que dans le domaine informatique du logiciel libre, il y a une évolution très rapide. Les développeurs de logiciels libres ont commencé historiquement par les infrastructures, donc la partie réseau, ce qu'on appelle les couches bases de l'ordinateur. Et effectivement, les environnements graphiques, le développement de l'environnement graphique est arrivé relativement tard, après, dans une deuxième étape. Donc, c'est vrai qu'il y a 5 ans, moi, par exemple, je ne l'aurais pas conseillé à des gens d'utiliser tout seul, d'installer tout seul du logiciel libre. Aujourd'hui, très clairement, avec des distributions, et je pense que Luc Fievet a l'expérience d'Ubuntu, par exemple, qui est une distribution logiciel libre qui est utilisable, ou Mandriva par le grand public, aujourd'hui, on peut conseiller aux gens d'utiliser du logiciel libre. Les choses en 5 ans ont considérablement évolué. Mais je pense que là-dessus, Luc, à mon avis, l'expérience...
Alors, sur le logiciel libre aussi, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est une multitude de logiciels, donc on pense aux distributions Linux, mais on peut très bien mettre du logiciel libre sur son Windows. Quand on utilise Firefox, qui se répand de plus en plus, c'est un logiciel libre.
Firefox,
c'est un navigateur Internet. On se rappelle, donc le premier, c'était Netscape. Microsoft s'est débrouillé toujours par la vente liée pour faire passer Internet Explorer à la place. Et Firefox est un autre navigateur.
Donc un navigateur, voilà. C'est simplement un outil qui permet d'aller se balader sur Internet.
Voilà, et qui est arrivé avec toute une série de très bonnes idées, et notamment avec un bloqueur de pop-up. Donc pop-up, c'est des petites fenêtres qui s'ouvrent et qui donnent de la pub.
Des petits parasites, là.
Voilà, chose que Microsoft n'aurait pas fait lui-même. Il a fini par s'aligner, hein, mais qu'il n'aurait pas fait lui-même, puisqu'il possédait des activités de publicité. Donc jamais Microsoft de lui-même aurait été se tirer une balle dans le pied, par exemple. Un logiciel libre n'est pas entravé ce genre de choses et les développeurs font des fonctions utiles à leurs utilisateurs.
Qu'en fin de compte, on peut quand même mixer les deux. C'est-à-dire d'un côté, par exemple, on parle de bien sûr Microsoft et son environnement Windows, mais ça qui est un logiciel propriétaire, mais ça n'empêche pas à côté d'utiliser... En plus, puisque bon, en gros, le système d'exploitation, c'est la base de démarrage et de réparation, quoi. Et donc, ça n'empêche pas d'utiliser, par exemple, des traitements texte, où là, tu viens de parler d'un navigateur, donc un programme qui permet d'aller se balader sur Internet, qui, eux, sont des programmes libres.
Voilà. Alors, aujourd'hui, on a toute une gamme de logiciels pratiques qu'on peut installer sous Windows, et qui sont des logiciels libres. Pour la bureautique, par exemple, on a OpenOffice, qui est extrêmement complet.
OpenOffice, ouais, je veux bien. Alors voilà. C'est vrai qu'il faut quand même, on a parlé du temps qui passait très très vite, on a quand même intérêt à utiliser la dernière version qui vient de sortir, parce que la précédente était un peu lourdingue.
Ouais. Toujours lourdingue, l'actuelle.
Ouais. Je bosse avec, et hormis peut-être le correcteur grammatical de Microsoft, qui est quand même pas mal, je vois pas de fonction, je fais pas de trucs de finance, etc. avec le tableur, mais je vois pas de fonction qui manque à OpenOffice aujourd'hui.
Juste pour prendre un exemple, la gendarmerie nationale migre tous ses postes en OpenOffice. Je pense pas que la gendarmerie nationale migrerait ses postes en OpenOffice comme ça pour le plaisir. Je pense que s'ils le font, c'est qu'ils ont fait une étude qui montre que économiquement il y a un intérêt sans doute à migrer à OpenOffice, mais qu'aussi techniquement il y a un intérêt à migrer à OpenOffice. Et c'est pas la seule. Il y a le gouvernement finlandais, je crois l'administration finlandaise qui a annoncé ça aussi dans la semaine, une migration vers OpenOffice. Il y a un vrai mouvement global de migration vers OpenOffice, même si derrière effectivement le système d'exploitation ça reste Windows, mais c'est une première étape. C'est aussi l'avantage du logiciel libre, c'est qu'il y a une grosse diversité et on peut venir au logiciel libre de différentes façons, soit en commençant à installer des logiciels libres sous Windows, donc Firefox, le navigateur Internet, OpenOffice, l'outil de courrier électronique, ou on peut installer directement effectivement un ordinateur avec que du logiciel libre. Il y a vraiment le choix. C'est la force du logiciel libre. Et c'est vrai que l'évolution du logiciel libre sur le point de vue grand public est très très rapide et va encore s'accroître. Clairement, entre il y a 5 ans, votre expérience et aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Plus rien à voir du tout.
Et même au niveau des systèmes d'exploitation, enfin moi je ne suis pas informaticien, donc j'installe du logiciel libre sur mon Windows depuis longtemps, je le fais notamment au travail. Alors on a toute une gamme de logiciels, hein, on peut parler de Framasoft, oui. C'est Framasoft.net, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Donc où on a une bibliothèque de logiciels libres qu'on peut installer sous Windows. Et on voit qu'il y a vraiment des tas de logiciels pour tout un tas de fonctions. Alors, un petit exemple professionnel, dans mon boulot, je dois faire des présentations, etc., pour présenter des trucs à des clients. J'ai installé GIMP, qui est un logiciel de retouche d'image, qui est très complet, un peu l'équivalent de Photoshop. Et ça me permet de retoucher des images de façon, avec un outil puissant. Et dans le cadre de mon boulot, c'est un avantage. Si j'allais voir mon patron en lui demandant de me payer une licence de Photoshop, il tirerait la gueule parce que j'en ai pas un usage intensif. Et ça serait beaucoup trop cher. Avec GIMP, je peux faire des choses que je pourrais pas faire autrement. Après ça, récemment, moi, j'ai installé Ubuntu, qui est une distribution Linux, et qui a l'ambition d'être adaptée aux utilisateurs de base dont je fais partie. Et j'avais déjà fait un essai il y a plusieurs années, et c'est vrai que c'était difficile, etc. Je m'en étais pas sorti tout seul. Sur Ubuntu, à un détail près, ça s'installe tout seul. Et je dirais même que l'installation est plus simple que celle d'un Windows. Qu'une fois qu'on a installé son Windows, ça marche à peu près tout seul. Mais comme le but du logiciel propriétaire, c'est de vendre des logiciels, une fois que j'ai installé mon Windows, il n'y a rien dedans, ou quasiment. Dans le logiciel libre, on n'a pas cette problématique. Donc une fois qu'on a installé son Ubuntu, on a une liste de logiciels, de bureautique et de tout type. Et on n'a qu'à cocher les cases et les trucs s'installent automatiquement. Et on n'a pas besoin de passer par des interfaces compliquées, de voir où est-ce qu'on va mettre ça sur le disque, est-ce que ça s'installe pas, etc. Avec tous ces logiciels qu'on parlait tout à l'heure, des freeware, ce genre de choses, qui vont installer des trucs promotionnels, qui vont balancer de la pub régulièrement ou des choses qu'on n'a pas demandé, etc. On est complètement libre par rapport à tous ces impératifs commerciaux. Et on a une liste très complète, ce qui n'empêche pas après ça d'installer des choses par ailleurs. Aujourd'hui, c'est pas totalement... j'ai eu une petite difficulté. D'une part, ça va s'améliorer avec le temps. Et ce qu'il faut voir également, c'est qu'aujourd'hui, les difficultés qu'il peut y avoir sur Linux, c'est essentiellement pour installer les périphériques. Aujourd'hui, tous les constructeurs de périphériques font des logiciels d'installation pour Windows. C'est-à-dire que c'est le constructeur du périphérique qui fait le boulot nécessaire pour que ça s'installe tout seul. Et c'est un travail qu'il ne va pas faire pour Linux. Donc aujourd'hui, on a quelque chose qui fonctionne quand même très bien. Et avec tout ce travail d'adaptation du périphérique qui est fait, le constructeur ne fait pas son boulot. Donc on voit qu'avec un handicap par rapport à Windows, on a quand même des choses qui tournent extrêmement bien et qui sont vraiment très très faciles à installer.
Oui, donc là tu viens de parler de tout ce qu'on appelle les programmes d'utilisation, c'est-à-dire
le système d'exploitation.
Là, pourtant, donc là, tu es plutôt en position mixte. D'un côté, tu vas avoir ton système d'exploitation Windows, et de l'autre côté, tu peux adapter des logiciels. Tu peux utiliser des logiciels libres complets. Voilà. Bon, faut savoir, c'est vrai qu'actuellement, le but, c'est quand même de descendre largement les prix du matériel, le hard, toute la partie dure, la partie physique. On l'a vu quand même sur les 10 dernières années où... Avant les euros, ça coûtait en gros entre 12 et 15 000 francs un micro-ordinateur de base, et que maintenant, 350-400 euros, vous pouvez l'avoir. Donc c'est vrai que c'est pas con, mais on sait très bien que ce qui est le plus cher actuellement, ce sont bien sûr les logiciels. Je dis ce qui est le plus cher au niveau théorique, parce qu'on sait très bien le taux de piratage qui est monstrueux sur tout ce qui tourne sur Windows, ou même tout ce qui pourrait tourner sur les Macintosh. Quoi. Je veux dire, c'est assez énorme. Donc là, on vient de parler des logiciels, des applications. Alors, qu'est-ce qu'il en est du système d'exploitation ? Puisque le système d'exploitation, c'est vrai que c'est vraiment la base. Quoi. Je veux dire, on ne peut rien faire. Mmh. Autant une application, on peut la passer par une autre ou des choses dans le genre. Mais les systèmes d'exploitation actuellement qui ne sont pas Windows, il n'y en a pas tellement. Il y a Linux avec tout ce qu'on appelle les distributions. Il faudrait nous faire un petit point sur ce qu'on appelle les distributions, justement.
Le truc, c'est que justement, il n'y a plus les notions de monopole comme on a avec le logiciel propriétaire. Le logiciel propriétaire, on est obligé de passer par quelqu'un. On n'a pas le choix, on va au garage du coin et la voiture va avec le garage du coin.
C'est Microsoft.
C'est Microsoft, point. Vous envoyez votre argent aux États-Unis, ils vont s'en occuper, craignez rien, faites-leur confiance.
Comme les fonds de pension.
Exactement. Alors que là, justement, il n'y a pas du tout cette notion de monopole-là. Certes, il y a du droit d'auteur, mais en fait, il y a un droit d'auteur qui est utilisé de manière à ce que le qui est utilisée comme une prise de judo, de manière à ce qu'on puisse diffuser sans ce contrôle. La personne qui place son logiciel sous la forme d'un logiciel libre, sous une licence libre, va indiquer qu'elle ne veut plus le contrôler. Là-dessus, qu'est-ce qui se passe ? Vous n'avez plus à passer par Linus Torvald pour récupérer le noyau Linux. Vous n'avez plus à passer par les gens qui écrivent des compilateurs pour récupérer les compilateurs. Quelqu'un d'autre peut le faire pour lui. Il va y avoir des intermédiaires autant que les gens le veulent. Luc pourrait faire une distribution Linux, pourrait reprendre tous les logiciels qui existent et qui lui paraissent pertinents, les assembler et les proposer, même à la vente.
C'est ce qu'on appelle donc une distribution.
C'est exactement ça, c'est une distribution. Et les distributions ont cette particularité amusante que parfois elles se reprennent les unes les autres. Mandriva, donc, qui est une distribution française, à l'origine était basée sur Red Hat. Ubuntu, qui est donc une magnifique distribution facile à installer. Sur un ordinateur portable récemment, j'ai fait ça en 10 minutes sans aucun
souci.
Ouais,
mais t'es un spécialiste, tu comptes pas.
Non, je n'ai rien fait. J'ai mis mon CD dedans. C'était un ordinateur que je ne connaissais ni Nev ni Nadan. Le truc s'est installé tranquillement par Internet en 10 minutes sans problème. Bon.
Est-ce qu'il reconnaît toutes les clés
USB ? Il a reconnu tout.
Parce que là, ça m'étonnerait, on a toujours des problèmes.
Ah non. Là, honnêtement, on plaçait le périphérique dedans, c'était reconnu. La carte Wi-Fi était reconnue. L'écran était nickel. Alors, certes, j'avais pas les accélérateurs 3D. Car les cartes graphiques d'accélération sont très fermées. Il y a des secrets de fabrication derrière, mais tout ça était très très bien connu. Et donc là, Ubuntu est basé sur Debian à l'origine. C'est une distribution qui elle-même a repris une autre distribution comme Bootstrap.
Donc une distribution, c'est un ensemble de produits.
Exactement, pas juste un système d'exploitation.
Voilà,
c'est beaucoup beaucoup plus riche. Vous installez Windows, vous avez rien. Vous pouvez allumer votre ordinateur. Vous avez peut-être une dame de pique qui se balade dans un coin comme jeu. La
c'est
souris qui bouge.
C'est un logiciel très utilisé.
Oui, forcément. Il n'y en a pas 36. Vous installez une distribution Linux, vous vous retrouvez avec des milliers de logiciels. Tous les logiciels que le distributeur a considérés comme importants. Et en général, aujourd'hui, ils font plus beaucoup de choix. Ils mettent tout. Ils mettent tout ce qui leur paraisse un tant soit peu utilisable. Vous vous retrouvez avec des dizaines, des centaines de jeux magnifiques, vous vous retrouvez avec plusieurs traitements de texte, des outils de modélisation 3D, vous vous retrouvez avec vraiment tout dedans, dans une distribution.
Et ça me semble être une richesse vraiment bien d'un point de vue éducatif. Mmh. C'est-à-dire que ce sont des outils. Donc quand on a... par exemple, sur Ubuntu, il y a plusieurs outils. Donc il y a un truc pour faire de la 3D avec un logiciel assez pointu que je connaissais un peu par ailleurs. Mais j'ai également découvert un logiciel de mise en page et j'avais jamais fait de mise en page, enfin de PAO avant. Et c'est un truc qui m'intéressait. Donc j'ai commencé à bidouiller avec ce truc-là. S'il avait fallu, pour m'intéresser à ça, que j'achète un logiciel ou que je le pirate ou ce genre de choses, j'ai jamais fait avant parce que j'avais pas l'argent à mettre dedans et que c'était compliqué, etc. Là, j'ai le truc qui arrive, je peux bidouiller, je peux voir comment ça marche, etc. Et c'est vraiment un moyen pour découvrir des tas d'outils. Et une fois qu'on a des outils, on peut avoir envie de faire des choses. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très stimulant pour commencer à devenir acteur, pas nécessairement en informatique, mais on a des outils pour créer, pour écrire, pour s'exprimer. Et on a accès à des tas de choses, on peut découvrir des tas de trucs. Et je trouve que c'est une stimulation vraiment très intéressante par rapport à un modèle où l'informatique, ça va être finalement un bien de consommation, où on va dire, prends ce machin, utilise-le et on va essayer de guider quelqu'un d'abord sur son portefeuille et à lui faire manger quelque chose. Là, on est vraiment dans l'idée de découvrir des logiciels, des outils qui peuvent amener à faire plein de choses, en fait.
Puis ça permet aussi, tous ces composants qui sont disponibles, à des gens qui ont un besoin spécifique, de prendre ces composants, les composants qui les intéressent, pour répondre à leurs besoins spécifiques. On parle de distribution de logiciels libres. Il y a des distributions, par exemple, qui sont spécialisées pour le monde éducatif, sur lesquelles, en fait, il y a des systèmes d'exploitation. Et les gens ont fait un travail de sélection, par exemple, d'outils orienté par exemple, je sais pas, en collège 12-18 ans, des trucs comme ça, avec des outils pédagogiques, des jeux, etc., sur lesquels, dès que c'est installé, en fait, vous avez uniquement la base qui est nécessaire pour le public précis. Vous avez des gens qui ont fait une distribution qui est orientée pour tout ce qui est audio et vidéo, donc qui s'intéressent notamment à des artistes, etc. Et c'est la force du logiciel libre, c'est ça, c'est justement, les composants sont disponibles et les gens prennent les composants, les assemblent pour faire finalement leur propre outil, leur propre distribution, et éventuellement rajoutent ce qu'ils ont besoin et ils le rajoutent dans le pot commun, ce qui permet ensuite à d'autres personnes, pareil, de recontribuer au-dessus. C'est un petit peu ce qu'expliquait tout à l'heure Emmanuel sur les distributions qui s'utilisent, qui se copient les unes les autres. C'est comme ça que le savoir se transfère. C'est par copie, c'est pas en cachant le savoir qu'on ça se transfère.
Sinon, ça devient très religieux.
Voilà.
Oui. C'est un principe de pouvoir de la religion, c'est bien de cacher le savoir.
Exactement. Mmh. Et ben, dans le modèle du logiciel libre, justement, c'est l'inverse. On ne cache pas. La recherche scientifique fonctionne exactement sur le même principe. C'est la transparence, c'est la revue par les pairs, c'est la publication. Ben, le logiciel libre, c'est exactement la même chose. Et ça permet donc à des acteurs économiques d'avoir un business. Mondriva, c'est une distribution, mais c'est aussi une entreprise qui vend cette distribution, qui vend dans les grands magasins, en téléchargement sur Internet, il y a un club, etc. Et puis ça permet à des groupes informels qui n'ont pas de vocation commerciale à la base d'avoir leur propre distribution qui correspond à leurs besoins propres. Et ça, c'est quasiment impossible avec le logiciel propriétaire intrinsèquement parce qu'on n'a pas les libertés. Et en plus, économiquement, parce que la plupart de ces acteurs-là n'auraient de toute façon pas les moyens économiques de récupérer tous ces objets-là, tous ces produits, avec des licences très chères.
Ce serait au moins rien que trop compliqué d'aller demander la permission d'inclure tel logiciel, tel logiciel, tel logiciel. Vous en feriez quoi, 10, 20 Vous auriez l'équivalent d'un petit CD de shareware ou de freeware que vous distribueriez à la sauvette. C'est très difficile à assembler. Et alors, pour avoir les mises à jour, les nouvelles versions, ce serait quasiment impossible. Là, vous installez une distribution, vous l'avez sur votre PC, les mises à jour vont être disponibles par la communauté des utilisateurs, par le fournisseur qui peut être une entreprise. Donc, il n'y a pas de blocage comme on aurait avec un logiciel propriétaire. Au contraire, on vous pousse vers vous une certaine richesse qui peut parfois être encombrante. On va se retrouver avec beaucoup de choix. Et comme on le sait, des fois, le choix est difficile à faire.
Je propose qu'on se mette une petite musique et qu'on parle peut-être après de l'aspect économique. Il y a quand même des histoires de gros sous. Donc, pour nous joindre, le 01 43 71 89 40.
Des alcôves, dieu des greniers, vrai tueur né, royale bête, enfant poète. Nuage chaud, au frais museau, pierre précieuse, fleur amoureuse. Viens dans mes bras, caresse-moi. Chat, doux démon, dragon mignon, athlète fin au flanc des reins, âme d'orange, visage d'ange. Roi de fourrure, d'amour, masque en velours, viens dans mes bras, caresse-moi. Chat doux penseur, calme empereur, chat dédaigneux, tendre et fiévreux, petit volcan rouge et crachant. Dents de dentelle, nacre cruel, morsure exquise, cheval de frise, viens dans mes bras. Sorcier, bijoux doré, cœur de bandit, rouston joli. Grandis, grandis, sois mon mari, mais halte-là, n'attaque pas, viens. dans mes bras, caresse-moi.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. C'est toujours la philanthropie de l'ouvrier charpentier. On a aujourd'hui des défenseurs du logiciel libre. Alors moi, c'est vrai qu'il y avait le mot libre, mais je fais toujours attention aux mots, hein, je ne sais jamais trop. Et puis là, il y a quand même un argument qui n'a pas été développé, c'est l'argument de l'argent. On a vu l'argument précédent qui était quand même l'argument de la facilité d'installation et d'utilisation. Ce que j'arrive à croire, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, et que de toute façon, il ne me semble pas qu'un logiciel propriétaire soit plus facile à installer. On en parlait là hors micro. Ceux qui utilisent Windows, j'espère que vous n'aurez jamais de problème dessus, ce qui est manifestement impossible, puisque à une époque, c'était l'écran bleu.
Oui.
On avait le grand écran bleu qui arrivait, et quand on avait l'écran bleu, on criait au secours. Actuellement, il y a d'autres dysfonctionnements, même sur les nouvelles versions. Par exemple, quand il vous met Microsoft, c'est le XP, et puis qui va sur l'écran et qui remet Microsoft XP, et qui tourne pendant des heures comme ça, bah, parce qu'il est planté, vous êtes bien embêté, parce que là, en effet, il n'y a aucune possibilité d'intervention. Puis vous pouvez demander à n'importe qui. À chaque fois, c'est on va réinstaller. Comme ça sera plus simple. Hein. C'est comme une voiture. Quand on rachète une voiture neuve, comme ça, c'est beaucoup plus simple que de trouver la panne. En effet, c'est délicat. Par contre, on pourrait peut-être parler aussi du rapport financier. Alors, il y a plein de choses autour du rapport financier. Le premier, peut-être, c'est que le créateur, il ne touche rien, là. Il travaille pour la gloire. Ça, c'est beau. C'est beau. Ça, moi, je ne suis pas contre. Mais le créateur, il travaille comment? Parce qu'on a pris l'exemple, par exemple, de Richard Stallman, qui lui était chercheur, etc. Donc lui, c'était dans le cadre de son boulot qu'il était payé. Donc il était quand même payé quelque part, puisque dans le cadre de son boulot, il devait faire de la recherche. Donc il y avait quand même quelqu'un qui reconnaissait que sa recherche avait de la valeur.
Sauf que quand il a lancé le projet de système d'exploitation, il a démissionné à l'époque du MIT, justement à cause des problèmes de droits d'auteur, pour être sûr, en fait, que les logiciels qu'il allait développer
n'appartiennent pas
au MIT et ne restreignent pas leur diffusion. Et donc lui, il s'est financé comment? Il s'est principalement financé en faisant de la formation, en faisant du service autour des logiciels qu'il développait. Aujourd'hui, ses principales sources de financement, c'est des prix qu'il a eus et les conférences, certaines conférences qu'il fait payer. Mais il faut bien comprendre aujourd'hui que dans le domaine des développeurs de logiciels libres, la plupart sont payés pour développer du logiciel libre dans leur activité, soit dans des entreprises. Mondriva, par exemple, paye des gens pour développer leur distribution. IBM paye des gens pour développer des modifications sur le noyau Linux. Donc, beaucoup de gens et de plus en plus de gens, en fait, produisent du logiciel libre sur leur temps de travail payé par l'entreprise.
Ça ne fait la même chose.
Mais ça n'empêche pas qu'à côté, il y a des gens qui produisent du logiciel libre tout simplement pour le seul plaisir de produire du logiciel libre. Il faut bien voir que produire du logiciel, quelque part, c'est un acte artistique pour beaucoup de gens. Il y a des gens qui font de la musique payée, financés sur différentes manières, et puis qui font la musique simplement le soir aussi, parce qu'ils ont c'est leur plaisir, c'est leur possibilité de le faire, ils sont créatifs, donc ils font de la musique. Et il y a des gens qui, pareil, dans le cadre du développement du logiciel libre, font du logiciel libre sur leur temps libre, parce que simplement ils sont créatifs, ils peuvent le faire. Donc les deux sont possibles aujourd'hui. Et effectivement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de développeurs qui sont payés sur leur temps de travail pour développer du logiciel libre, soit par des grandes entreprises, par des institutions. Par exemple, on peut parler de l'administration publique. L'administration, les collectivités territoriales, par exemple, sont financées sur fonds publics. On pourrait se dire que, naturellement, une structure qui est financée sur fonds publics, ce qu'elle développe doit être publique. Le logiciel libre, quelque part, c'est un logiciel public, justement, vu qu'on a les quatre libertés. Donc, il y a un mouvement dans l'administration, dans les collectivités, pour produire des développements en interne qui vont être faits en logiciel libre dès le départ. Et donc, les gens, les informaticiens qui sont payés par l'administration, les collectivités, les sociétés de services qui sont prestataires de ces structures, font du logiciel libre et sont payés pour ça. Donc il y a de plus en plus de gens, tout simplement, dont le métier est de produire du code qui va simplement être du logiciel libre et ils sont payés pour ça. Mais ça n'empêche pas qu'il y a toujours des gens qui vont produire du code de façon bénévole parce que ça leur fait plaisir, parce que c'est leur passion, parce qu'ils sont aussi les premiers utilisateurs de leur logiciel. Exactement comme dans la musique, il y a des gens qui font de la musique rien que pour faire le plaisir de faire de la musique.
On a aussi des gens qui font de la radio, sur Radio Libertaire sans être payés et qui sont payés par ailleurs. Mais...
Oui, donc là, en vérité, on trouve donc trois domaines, les grosses entreprises. Mais une des grosses entreprises, j'ai du mal à savoir pourquoi.
Toutes les entreprises.
J'ai du mal à savoir pourquoi elles voudraient faire, parce qu'on a parlé de Sun ou d'autres sociétés, faire du libre. Là, parce que l'entreprise est en fait pour faire l'argent, faire du libre,
il n'y a pas rapport. Parce qu'elles vont faire de toute façon un logiciel, qu'il soit libre ou pas libre, c'est pas intrinsèquement, elles s'en fichent. Le fait qu'il soit libre, ça ne leur coûte pas vraiment de l'argent, voire même ça leur rapportera de l'argent d'une autre manière en contributeur. On va en reparler peut-être plus tard.
Là, je veux bien le sentir comme ça, parce que je vois pas une société payer des chercheurs pour faire quelque chose de libre, quelque chose qui ne rapporterait pas à la société, à l'entreprise. À l'avant tout, l'entreprise va faire du fric.
Oui, mais si ce n'est pas lié à son activité directement, si une entreprise qui n'a rien à voir avec une gestion de la paye a besoin de développer en interne, comme toutes les entreprises du monde, un outil de gestion de paye, donc elle peut en acheter des choses horribles, ou alors elle peut essayer de reprendre quelque chose qui existe en logiciel libre, l'améliorer, rajouter des choses qui lui conviennent et reverser ces améliorations dans le pot commun pour que d'autres entreprises fassent la même chose et éventuellement fassent améliorer globalement le logiciel. C'est vraiment du gagnant-gagnant. Et dans ce cas-là, effectivement, un logiciel qui a été développé en interne pour des raisons pratiques peut être pratiquement partagé et amélioré en groupe. C'est vraiment un côté collaboratif. On s'aide, on s'entraide les uns les autres.
Puis, ce qu'on vient comprendre, c'est que le logiciel libre permet à des entreprises innovantes de partir sans capitaux quasiment.
Oui.
Là où dans le cadre, souvent on parle de la net économie ou des trucs comme ça, où il faut des millions pour démarrer parce qu'il faut des achats de brevets, etc. Dans le cadre du logiciel libre, une entreprise qui a une idée innovante, elle peut prendre les composants qui existent déjà, rajouter juste ce qu'elle a besoin pour démarrer son business, et ensuite faire évoluer son business là-dessus. Elle peut démarrer de rien. Et le fait de le refaire en logiciel libre, c'est simplement de se dire qu'il est plus intéressant pour moi de le remettre en logiciel libre, parce que si je le fais et que tout le monde autour de moi le fait, finalement ma contribution est très petite par rapport à ce que je récupère en fait. Moi j'ai mis un petit peu dans le pot commun, mais par contre il y a plein de gens qui ont mis beaucoup dans le pot commun, donc globalement je suis gagnant. Et ça c'est un modèle qui se développe de plus en plus, et ça permet effectivement, quand on parlait tout à l'heure des licences qui repartent, de l'argent des licences qui repart aux États-Unis via l'Irlande par exemple, et ben là ça permet de développer un modèle de développement économique local, avec des gens en local qui sont payés avec des salaires, l'argent reste dans le pays d'origine, et c'est pareil de la même façon dans les pays en voie de développement ou les pays du Sud, qui, pour des raisons d'indépendance, peuvent faire le choix du logiciel libre, mais aussi pour des raisons simplement bassement économiques, de se dire qu'on va développer un système économique local basé sur du service, de la maintenance, de la formation, du développement, mais en partant de composants logiciel libre, parce que justement, ça permet de démarrer un business sans avoir besoin d'avoir des monceaux d'argent que de toute façon, ils n'auront pas. Donc ça crée véritablement un marché qui est en cours beaucoup plus sain. Et l'intérêt de tous, c'est de contribuer justement pour finalement mutualiser ces développements, ces corrections de bugs, là où le développement du logiciel propriétaire est centralisé, il faut beaucoup d'argent et complètement monopolistique. Donc là, on a un service, enfin, on a un modèle économique qui est basé sur le service qui permet une vraie concurrence. Donc c'est un modèle qui est en plein développement. Il y a des gens qui font le choix donc, du logiciel libre, on l'a dit tout à l'heure, pour des raisons économiques, d'un point de vue strictement stratégique, pour des raisons effectivement de fric. Moi, ça ne me choque pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je fais du logiciel libre plutôt pour des raisons éthiques et philosophiques, mais je trouve très bien qu'il y a des gens qui fassent de l'argent derrière. Surtout qu'ils ne restreignent pas les libertés des utilisateurs. C'est ça l'essentiel, c'est-à-dire qu'ils
font de l'argent.
Ils font de l'argent, mais ils ne restreignent pas les libertés des utilisateurs. Ils redistribuent au pot commun. Moi, je peux récupérer ce que j'ai besoin si j'en ai besoin. Une autre entreprise peut le faire. Donc, moi, je trouve ça tout à fait sain, je dirais, comme modèle économique. Moi, je ne suis pas contre l'argent, mais au contraire, je pense que les gens ont besoin de vivre, effectivement. Sauf que là, c'est un modèle qui est basé sur le respect des autres, sur la liberté et sur le fait que finalement, c'est l'innovation qui va gagner. Et en informatique, l'important, c'est juste d'avoir 6 mois d'avance, en fait, souvent.
Oui.
C'est ça qui est important. Et le logiciel libre permet de démarrer très rapidement à partir de composants. Et si on a une idée qui nous permet d'avoir 6 mois d'avance, eh ben, on peut démarrer très rapidement. Il y a plein d'entreprises qui démarrent comme ça. Ils démarrent à 2 ou 3. Et puis aujourd'hui, ils sont 10. L'entreprise, par exemple, qui fait de la sécurité, ils ont démarré il y a 2 ans. C'est des anciens collègues à nous. Ils étaient 2 ou 3. Ils s'appellent INL. Ils font un outil de sécurité. Ils ont une idée innovante. Ils ont partie de composants logiciels libres, ils ont rajouté juste ce qu'ils ont besoin et aujourd'hui, ils sont 10 de personnes. Et ils ont eu les honneurs d'un des principaux journaux informatiques il y a quelques semaines. Je trouve ça très bien.
Mais alors ça, maintenant, pour l'entreprise, j'arrive à comprendre quel est son intérêt. Parce que moi, je pense que pour une entreprise, l'intérêt, c'est l'argent. Donc, payer des gens pour faire du libre, je ne comprenais pas. Mais par contre, payer des gens pour faire du libre, sachant que ça représentera peut-être 1 ou 2% de ce qu'ils auraient dû débourser pour faire en prenant du propriétaire, ça, j'arrive à comprendre pourquoi ces gens, une entreprise, pourrait faire le choix de payer des gens pour du développement. Ça, j'arrive à comprendre. Pour tout ce qui tourne autour de l'administration. Bon, moi, je trouve que c'est vachement bien que l'administration ne fasse pas son travail traditionnel de transfert des fonds publics aux fonds privés. Ça, c'est une évidence claire, puisque d'habitude, c'est ça. Bon, j'y crois pas sur du long terme, malheureusement. Je crois plutôt à l'argumentation. On donne un petit peu et on récupère 90% par rapport aux 10% qu'on a donné. Par rapport aux fous d'informatique, chacun est fou dans son domaine. Ça, j'avoue que ça, c'est pas trop, trop grave. Donc, on arrive peut-être sur les gens qui vont donc créer du logiciel libre à comprendre un peu l'idée. Je parle bien d'idée économique pour l'instant. D'ailleurs, c'est vrai que quand vous êtes fou de quelque chose, quelqu'un qui est fou de peinture va passer des nuits, des jours à faire de la peinture. Le rapport financier n'existe plus et c'est bien quand le rapport financier n'existe plus de temps en temps. La distribution. comment les gens vont se faire de l'argent sur la distribution ? Parce qu'il faut, on a parlé de distribution, mais puisque c'est libre, pourquoi le...
En abondant.
Mais quel est l'intérêt de vendre quelque chose que l'on peut avoir gratuitement ? Là, il faut m'expliquer.
On peut l'avoir gratuitement. Là, il y a tout de même...
Le côté spécialiste.
Non. C'est juste, c'est tout bête. C'est que vous allez la retrouver dans un magasin avec un prix marqué dessus, une boîte qui sera peut-être jolie, avec un bouquin éventuellement associé, plusieurs CD ou DVD, une aide en ligne avec une hotline, des gens qui vont vouloir vous aider. Mais effectivement... Par ailleurs, on peut, si on le veut, aller sur Internet, voire même sur le vendeur, vous allez sur Mandriva, ils vont vous proposer de télécharger le CD par Internet gratuitement. Mais eux, leur but, c'est qu'ils vont essayer de vous proposer cette boîte facilement, que vous allez trouver facilement et que vous allez acheter. Il n'y a rien qui empêche d'acheter un logiciel libre. C'est encouragé, ne serait-ce que pour les coûts, pour essayer de repayer un peu les coûts.
Oui, c'est ça, parce qu'une société... Je veux dire, vendre du logiciel libre, déjà, elle ne peut pas le vendre beaucoup, très cher, il faudrait être cohérent.
Logiquement, elle ne peut pas le vendre beaucoup. Mais après, il va y avoir un système aussi de hotline, souvent.
Voilà, c'est ça.
Il va essayer, lui, d'avoir une valeur ajoutée. Pour les entreprises, c'est quelque chose d'énorme. Moi, je vois des entreprises qui refusent d'utiliser des logiciels parce qu'ils ne sont pas supportés par le système d'exploitation. Là-dessus, il y a une entreprise qui s'appelle Red Hat, qui commence à être assez connue pour ça, parce qu'il y a plein de revendeurs de matériel qui certifient que leur matériel tourne parfaitement avec Red Hat. Là-dessus, vous avez une assurance, une sorte d'assurance qualité que les entreprises adorent. Quelque part, c'est toujours le vieux principe du « au moins, je me couvre ». Vous savez, c'est le parapluie, je me couvre, j'achète quelque chose où je sais que derrière, la loi va me protéger. Bon, en théorie, parce qu'après, dans les faits, il faudra voir, mais les gens recherchent beaucoup ça. Et les entreprises, c'est elles qui apportent souvent l'argent à ces grosses distributions.
Et puis, il y a des utilisateurs qui achètent effectivement des distributions, comme le dit Emmanuel, parce qu'il y a plusieurs CD, il y a le bouquin imprimé, que c'est quelque part plus simple d'aller dans un magasin acheter la boîte, et qu'en plus, le coût, effectivement, comparé finalement à l'arnaque du logiciel propriétaire, en raquette du logiciel propriétaire, moi je trouve que mettre, je ne sais pas, 100 € dans une distribution Mandriva, moi je l'ai fait l'an dernier par exemple pour mon beau-père, il voulait se mettre au logiciel libre, c'est vrai qu'on aurait pu télécharger les CD-ROM, les graver, on aurait pu télécharger le manuel en PDF, l'imprimer sur son imprimante,
ouais. Je me suis dit... Ce qui a un coût aussi.
Je me dis, attends, on va au magasin d'à côté, je sais qu'il le vend, de toute façon on doit y aller, donc on prend la boîte. Ça permet aussi à la distribution de vivre, donc de maintenir la distribution en vie aussi. Et pour moi, ça ne représente pas un coût énorme. Et je trouve que c'est un coût en plus juste. Donc, on a acheté la boîte, on a installé la distribution. Mais c'est vrai qu'on aurait pu faire le téléchargement. Mais sauf que ça a été plus vite pour nous. Le coût pour nous paraissait juste. Ça permet de faire vivre la distribution. Donc à partir du moment où on sait qu'il n'y a pas arnaque, on sait qu'il y a une transparence, on sait où va l'argent, il y a plein de gens qui sont prêts à payer pour ça. Même si à côté, c'est vrai qu'on peut distribuer, enfin on peut télécharger la distribution gratuitement. Alors clairement, ce genre de modèle économique, ça ne permettra sans doute pas à ces gens-là de devenir des Bill Gates. Mais dans le monde informatique, il y a combien de Bill Gates, quoi ? Et pour quel coût à côté ? Quel coût par rapport aux libertés individuelles dans le monde informatique ? Donc moi, je trouve qu'il est sain, moi ça ne me dérange pas, d'avoir à payer par exemple tous les ans ou quelque chose, une somme d'argent pour qu'une distribution de logiciels libres vive. Ça ne me dérange pas. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont comme ça. Il y a plein de gens qui sont prêts à payer, il faut bien voir.
Il y a même
simplement parce qu'ils ont les moyens de le faire, mais ils le font dans une structure dans laquelle ils ont confiance et dans un modèle dans lequel ils ont confiance. Les gens, quand on les force à payer, quand c'est du racket...
D'ailleurs, on ne les force pas à payer, ils ne savent même pas.
Ils ne savent pas. Mais justement, là, il n'y a pas de forcer. Là, tout est clair, tout est transparent. Et c'est vrai qu'avoir un manuel imprimé, moi, je compare par rapport au livre électronique ou par rapport à la musique qu'on télécharge sur iTunes et compagnie, etc., avec tous les DRM, c'est-à-dire les outils qui vous contrôlent en fait, votre usage... Moi, je suis désolé, je préfère encore avoir un livre papier parce que je peux le mettre dans la bibliothèque, je pourrais le lire autant de fois que je voudrais. Ou avoir...
dans le lit, c'est mieux que quand même un ordinateur, même un portable. Non, mais faut être honnête.
Ou avoir un CD-ROM, par exemple, avec une belle jaquette et puis un petit manuel où vous avez des photos, des concerts, etc., plutôt que télécharger de la musique comme ça. Je préfère encore ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui préfèrent encore ça. C'est-à-dire avoir ce lien au matériel et puis surtout... d'avoir effectivement le choix de l'usage derrière. Le livre, effectivement, on pourra le lire tranquillement dans son lit si on veut, on pourra le lire 25 fois, plutôt que quand on télécharge de la musique, on soit limité par des outils, des mesures techniques qui sont choisies unilatéralement par le producteur, généralement.
Oui, sachant que quand on parle d'argent, on peut parler de piratage aussi. C'est vrai qu'il y a un système qui propose le piratage. Je dis bien qu'il le propose. Je veux dire, quand on se fait raqueter... on essaye de détourner.
Ça les aide. Le piratage les a beaucoup aidés pour se diffuser, notamment.
Ah oui.
C'est un moyen de diffuser.
Déjà, sur le terme piratage, il faut arrêter avec le terme piratage. Oui. Ah, c'est de la contrefaçon, vraiment, juridiquement, parce que piratage, ça laisse l'impression que derrière, il y a des gens qui meurent, etc.
Avec des bandes
arrêter
sur les
ça,
yeux.
Parce que la contrefaçon a été organisée par le logiciel propriétaire, de façon volontaire, il faut quand même le dire, vu qu'ils ont jamais, ils ont très rarement essayé de contrer vraiment la contrefaçon pour une raison très simple. C'est que le fait que des gens faisaient des copies illégales de logiciels augmentait leur base de logiciels utilisés. Et ils savaient très bien que de toute façon, par cette façon-là, en fait, leur base de logiciels se diffusait, et que c'est vrai qu'une partie leur échappait en termes monétaires, mais qu'une autre partie leur revenait, parce qu'à partir du moment où une personne avait utilisé, par exemple, une copie de Photoshop illégale, et qu'il communiquait avec quelqu'un d'autre, ben cette personne, une de ces personnes qu'il communiquait, lui, allait acheter Photoshop. Donc la contrefaçon était organisée, en fait, par le logiciel propriétaire pour augmenter sa base. C'est un petit peu, vous savez, comme dans la drogue, hein. Souvent les premières doses, elles sont pas chères, elles sont gratuites, on laisse tourner comme ça pour appâter le client et puis surtout pour le rendre captif. Donc la contrefaçon est organisée par le monde propriétaire, c'est très clair, et derrière, il n'y a pas de mort. Qu'il y ait des modèles économiques aujourd'hui qui doivent évoluer, c'est une autre chose, mais très clairement, il faut être là-dessus très clair, que la contrefaçon dans le domaine du logiciel est organisée par les gens du propriétaire. Et d'ailleurs, quand on leur demande des études qui chiffrent leurs pertes par rapport à cette contrefaçon, ils en sont incapables. Ils vous donnent toujours, oui, il y a X% de machin, mais ils se basent sur quoi ?
Ils inventent des chiffres.
Hein. Ils inventent des chiffres. Il n'y a jamais eu aucune étude sérieuse qui a été publiée par un organisme qui vise à lutter contre la contrefaçon, disant qu'il y a tant de pertes et que si on pouvait lutter contre la contrefaçon, on gagnerait tant d'argent. Non. Il n'y a jamais eu aucune étude.
Ils s'en fichent. Ils ne s'intéressent qu'aux entreprises. C'est vous et moi, on installe un logiciel chez nous. Ça, ils s'en fichent royalement. Ce qui leur importe, c'est qu'une entreprise, elle, quand elle va installer un logiciel, on peut la contrôler beaucoup plus facilement. Et elle peut payer cher. Elle a de l'argent. Elle a les moyens de donner quelque chose à l'éditeur traditionnel d'un logiciel propriétaire. Donc, c'est dans les entreprises que ça se bat, vraiment.
Puis il faut voir quelles sont leurs méthodes de ces gens-là. Il faut savoir qu'en Belgique, ce qu'on appelle la BSA, la Business Software Alliance, qui est une organisation qui est le bras armé en gros de Microsoft, qui vise officiellement à lutter contre la contrefaçon, notamment dans les entreprises. En Belgique, l'organisation a été dissoute il y a quelques années parce qu'il faisait appel à la délation. Et en plus, il faisait de la lutte contre la contrefaçon, la deuxième chose, comme un appel économique pour forcer les gens à acheter des licences Microsoft. Donc il y avait derrière, en plus, quelque part, c'est même plus du racket, c'est la mafia, quoi, en gros, quelque part. C'est la même méthode, quoi.
Les avocats arrivent à la porte.
Voilà, les avocats arrivent à la porte, etc. Et les entreprises ont tellement peur qu'en fait, elles payent même sans vraiment savoir ce qu'elles sont censées payer. Et cette entreprise a été dissoute en Belgique il y a quelques années. Et moi, je le dis aujourd'hui, il n'y a pas d'études qui montrent que la contrefaçon dans le domaine du logiciel a mis en danger Microsoft. Au contraire, ça a permis de leur créer une base installée et que derrière, effectivement, il y a des gens qui ont payé. Et puis, il faut se souvenir d'une chose, le prix dans l'immatériel, c'est quelque chose qui est... qu'est-ce que vaut un logiciel ? Est-ce qu'il vaut 100 euros ? Est-ce qu'il vaut 2 euros ? Est-ce qu'il vaut 1000 euros ? C'est de l'immatériel. C'est très difficile de dire aujourd'hui ce que vaut réellement en tant que financier un logiciel. L'évaluation économique d'un logiciel, c'est quelque chose qui est compliqué. L'immatériel est quelque chose qui est compliqué. Et on essaye aujourd'hui d'appliquer les règles de l'économie matérielle classique, qui est une économie de rareté, à un modèle où c'est l'abondance. Donc forcément, ça ne marche pas. Et c'est là les problèmes qu'il y a sur le peer-to-peer et la musique, où là aussi, ça fait des années que les producteurs nous disent que la contrefaçon, ce qu'ils appellent le piratage, met en danger leur industrie, sauf qu'ils n'ont jamais réussi à le prouver. Et qu'en fait, on constate au contraire qu'il y a un déplacement des modèles économiques. Là où les gens n'achètent plus de CD ou de musique comme ça, ils le mettent dans les téléphones de sonnerie de portable, téléphone musical, portable. Donc il y a un déplacement simplement économique. Donc vraiment, la contrefaçon, ce qu'ils appellent le piratage, c'est un terme à prendre avec des pincettes parce que ça existe en partie, mais ça profite quand même beaucoup en fait au logiciel propriétaire.
Et bon, on va se mettre un petit moment de musique, hein. Donc Radio Libertaire 89.4, la philanthropie de Lourier Charpentier, aujourd'hui autour donc des logiciels libres. Et on revient dans 5 minutes.
Qui n'est pas mal sans le chien. Pas ma chanson, qui n'aime pas ma chanson, le chien, qui n'aime pas ma chanson, avec grève du charbon, grève du fer, ils dansent dans le chewing-gum les enfants, avec une petite prière devant le cercueil, plus de blues pour un chien, quelqu'un pour lui parler. Avec grève du mot, du sifflet, du rire, quelqu'un pour le conduire. Les coquelicots
sentent le vin rouge. Ils hurlent tout dans leurs semences. Les coquelicots sentent le vin rouge. Ils hurlent tout dans leurs semences. Ils les écolent, ils les usines. Ils les travaux, ils les voisins. Ils les prairies, ils les coups de poing. Ils les livrent, ils les sorties. Ils les statistiques. La rue aux assiettes cassées, dans un avion au ciel multiplié, je m'attarde hors de ce passé vaisselle, avec ce vieillir sur les collines, la vigne forcit la sève nouvelle. La femme se fendille avec des pas d'aveugle, indécise vers le bleu du canapé. Et le soir sonne, inutilisable. Le chien est sourd.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, excusez-moi, c'est la philanthropie de l'ouvrier charpentier, mm-hmm. Voilà, comme le nom d'un
de moi.
Voilà.
C'est terrible.
Le problème qu'on se posait un peu, c'est est-ce que ce modèle du libre, ce modèle du libre, peut fonctionner dans d'autres domaines? Parce que si c'est un modèle qui peut fonctionner dans tous les domaines, on va arriver à quelque chose d'assez intéressant, puisque ça part sur une notion de communauté, peut-être arriver au communisme pur. Alors là, ça, bon, c'est peut-être un peu dangereux, il faut faire gaffe.
Non, non.
De l'image du communisme qu'on a eu. Attention, hein, faut
qu'il
pas
y a eu un moment, parce que c'est pas du
mais
tout,
Est-ce que, par exemple, ce modèle du libre, c'est-à-dire de la création, en fin de compte, c'est de la création et de la recherche donnée à tous pour que ça revienne. Bon, c'est quand même une idée qui est vraiment intéressante. Je veux dire, c'est,
modèle scientifique.
Ouais, oui, mais c'est de travailler sur le principe de la communauté, au lieu que ça soit sur le principe individuel. Et visiblement, on vient de voir qu'avec le logiciel libre, même pour faire de l'argent, c'est possible. Je veux dire, il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux mondes. Bon, c'est déjà pas mal, mais est-ce que ce modèle pourrait s'apparenter à d'autres, s'appliquer à d'autres? Mais bon, je crois qu'on vient juste de parler du côté matériel et immatériel. Je pense qu'il faudrait justement parler, peut-être, est-ce que c'est possible sur des biens matériels? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est impossible? Et si c'est impossible, dans quel autre domaine on pourrait l'appliquer? Quand vous voulez.
Tous les domaines culturels.
Oui, alors sur le bien matériel et immatériel, c'est vrai qu'on a avec le logiciel et les biens immatériels un avantage. Mais aussi, il faut savoir, je pense, en termes économiques et de travail, relativiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le travail en entreprise avec des systèmes capitalistes, etc., qui nous paraît une évidence. Ça ne l'est pas. L'entreprise, c'est quelque chose d'assez récent. Enfin, en termes historiques, c'est une invention du 19e. Avant, on avait des tas de gens qui travaillaient de façon communautaire et qui parvenaient très bien. On a encore aujourd'hui les systèmes coopératifs, les SCOP, ce genre de choses où on sait faire du matériel sans nécessairement passer par le système de concurrence, enfin, même si une SCOP est soumise à la concurrence, mais avec ces systèmes coopératifs et qui fonctionnent collectif, quoi. Et c'est vrai que l'immatériel a cet avantage de que le travail, une fois qu'il est fait, une fois que le logiciel est produit, par exemple, on peut le recopier à l'infini sans perte de qualité pour un coût négligeable. Même problème, c'est même un avantage, c'est pas un problème. Donc même avantage dans la musique, où une fois qu'on a fait son morceau, on peut diffuser le morceau sans infrastructure lourde et leur copier à l'infini. Donc effectivement, à partir du logiciel libre, il y a des nouveaux projets qui sont mis en place. Alors on peut penser à Wikipédia par exemple.
Alors
Wikipédia, une encyclopédie, ou disons plutôt un projet encyclopédique, ça passe par Internet. On a un site dont le contenu peut être modifié à volonté immédiatement par tout le monde.
Alors, wikipedia.org.
Oui.
Qu'au moins les gens aient dessus.
Oui, alors c'est.
De toute façon, c'est pas trop difficile, puisqu'actuellement, quand on utilise un moteur de recherche,
oui,
qu'on met une définition ou une recherche de définition, ça arrive quand même dans les 5 premiers.
Voilà. L'adresse est fr.wikipedia.org, pour avoir l'adresse complète. Et pour le coup, là, on a. Dans ces idées, alors on a toujours ces licences, donc ces principes de partage qui ont émergé avec le logiciel libre sur le contenu. C'est-à-dire que ce qui est écrit dans Wikipédia peut être récupéré par ailleurs. On a parlé là récemment d'un projet, une sorte de projet concurrent à Wikipédia qui montait par un des types qui avait été au tout début et qui s'était un peu brouillé avec le créateur de Wikipédia. Et ce type-là part pas de zéro. Il prend tout ce qui a été fait dans Wikipédia, lui veut faire un système avec des gens qui vont valider, donc un comité de lecture. Est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché, on ne sait pas. Mais en montant ce projet, il ne part pas de zéro. Il part avec tout le travail qui était accumulé.
Mais on est complètement dans le livre.
Voilà, on est complètement dans le champ du livre. Alors moi, je vois quand même une différence énorme entre le logiciel libre et Wikipédia. C'est qu'un logiciel, à un moment ou un autre, il est plus ou moins fini et on sait s'il fonctionne ou s'il ne fonctionne pas. C'est-à-dire que quand je prends... Voilà, il peut plus ou moins bien marcher.
Disons
que c'est moins relatif dans un logiciel. C'est-à-dire que si moi j'installe un truc et que ça marche pas, je dis ça marche pas. Quand tout à l'heure tu parlais de ta tentative d'installation il y a 5 ans d'une distrib Linux, c'est très compliqué, c'est trop compliqué pour quelqu'un qui est pas spécialiste.
Il y a 5 ans.
Et c'est clair. Donc un logiciel, c'est quelque chose qui marche et sur lequel on peut s'entendre sur son fonctionnement, son bon fonctionnement ou son mauvais fonctionnement, de façon assez rigoureuse. Donc il y a quand même des différences. On s'inspire donc dans Wikipédia par exemple de ces principes, mais comme une différence parce que dans Wikipédia, le projet n'a pas de fin. Parce qu'à partir du moment où tout est modifiable, etc., on a des problèmes de vandalisme, ce genre de choses. Donc c'est un travail en continu d'amélioration et de maintenance du savoir qui a été mis en place. Et il y a des gens qui, en toute bonne foi, vont également faire des modifications, alors que des choses ont été décidées, etc. Donc il y a ce côté un petit peu sans fin. Et on va voir des bouts de Wikipédia qui vont être de mauvaise qualité, d'autres de très bonne qualité. Donc on a un peu un brouillard et ce côté quand même très 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 flou parce qu'on est dans le domaine des idées.
Dans le domaine des idées. Voilà. C'est un peu gênant dans ce que tu dis parce qu'on s'attend toujours qu'il y ait une encyclopédie. Ça pose la vérité, la réalité.
Alors, c'est une
sans
erreur.
Problème.
Oui.
Non, mais je suis d'accord là-dessus parce que on pense au dictionnaire. Un dictionnaire ne peut dire que la vérité. Le seul problème, quand on prend trois dictionnaires, ils disent des choses différentes. Et puis actuellement, tous les dictionnaires appartiennent au même éditeur. Donc déjà, sur l'objectivité, on est tranquille pour un moment, puisque toutes les maisons d'édition qui faisaient des dictionnaires, que ce soit Larousse ou autre, appartiennent à la même société. Donc c'est vrai que là, après, il y a des problèmes d'objectivité. Mais on pourrait quand même s'attendre qu'à une encyclopédie, il y ait une réalité, un moment, quelque chose qu'on pourrait dire juste et inattaquable.
Non, il faut un sens critique pour le lire quand même.
Alors pour moi, c'est une force du truc, c'est que la personne qui va vendre un savoir ou une information en disant « voici la vérité », c'est un gourou, c'est un escroc. et s'il dit « voici la vérité », c'est qu'il a un projet derrière et qu'il est déjà dans un rapport de pouvoir.
Alors ce qui veut dire que l'intérêt, donc, dans ce cas-là de... Non, nous, on l'appelle Wikipédia, excuse-nous. Pas les spécialistes.
Un petit oui.
Non, Wikipédia, l'intérêt, c'est que justement, il y a une mise à jour constante aussi.
Oui, oui.
Il y a une évolution et l'intérêt aussi, probablement, c'est qu'il y a des compensations sur les gens qui vont écrire. C'est-à-dire quelqu'un va écrire. Le fait que ça soit d'un accès très facile, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'en acheter 12 tomes pour lire un élément... et dire « nous, on n'est pas d'accord », ce fait-là fait qu'en vérité, il y a une constante mise à jour et donc une évolution vers la qualité.
Voilà. Mais c'est... pour moi, je contribue à Wikipédia depuis quelques années. Je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est un mouvement constant.
Et même à l'intérieur, enfin moi je sais qu'il y a quelque chose que je trouve très contestable, c'est les articles sur les mathématiques. Alors ils sont probablement d'une rigueur implacable, probablement, j'y comprends absolument rien. Et alors bon, on me dit c'est très compliqué, etc. Mais moi je suis allé voir, ou même en physique, hein, je suis allé voir des trucs assez élémentaires que je connais un tout petit peu, etc. Et on se retrouve avec des définitions sans doute très rigoureuses, mais totalement, avec aucun travail de vulgarisation, ne serait-ce que sur un début, etc. Par exemple, je trouve que ça, ce serait une voie d'amélioration de Wikipédia qui serait très intéressante. Et donc, les clivages qu'on peut avoir dans la société par rapport au savoir, on peut aussi les retrouver dans Wikipédia. Et il y a des gens qui, c'est leur savoir, etc. Ils disent, c'est comme ça que ça doit être présenté. Et moi, je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus, vers un plus grand accès du savoir, par exemple. Donc, un projet libre c'est pas parce qu'il est libre qu'on est arrivé à quelque chose de merveilleux et que c'est le paradis.
Mais un produit payant
voilà,
à
non
même
plus.
Chose.
Oui, oui, non, non,
mais
ce que je veux dire,
c'est
que
logiciel, quand on fait voilà, certaines manipulations, on est planté et puis c'est tout.
Quand
hein.
on commence à faire du libre, je disons que c'est le début d'un travail. Dans le logiciel libre, c'est pas le paradis sur terre où tout le monde s'embrasse sur la bouche et où tout va bien. Il y a des conflits, il y a des gens qui sont pas d'accord, il y a des conflits même des fois très durs.
Il y a des guerres.
Il y a des guerres, mais on se donne les moyens de travailler ensemble et on se donne le moyen de le faire honnêtement, en transparence.
Donc là, on vient de voir sur ce qu'on pourrait appeler la connaissance.
L'encyclopédie voilà. de la connaissance,
oui,
savoir
sur
humain,
la connaissance, ça serait possible de mettre un système.
Tout ce qui est
à
culturel. Il n'y a pas de limite. La musique
Alors,
aussi.
Peut-être que les encyclopédies sur papier vont chuter complètement.
Il y a, de ce que j'en ai entendu dire, il y a déjà eu des conséquences sur les encyclopédies, des conséquences malheureuses en termes d'emploi notamment, ou sur les encyclopédies papier, oui, ça leur fait un manque
oui,
à gagner.
Oui, parce que de toute façon, c'est vrai que même si on prend l'Internet en général, déjà, il y avait une masse d'informations qu'on n'allait plus voir dans des dictionnaires. C'est, au niveau information, c'est un outil qui est fabuleux.
Mais en même temps, bon, il ne faut pas trop jeter la pierre aux encyclopédies conventionnelles. Hein, elles ont aussi leur intérêt. Enfin,
oui, je sais lire au fond du lit. Mais l'encyclopédie, ça tient dur.
Non, non, mais même, elles sont accessibles par Internet également. Ce que je veux dire, c'est vrai que dans Wikipédia, c'est quelque chose de mouvant. C'est quelque chose où on peut avoir des sujets qui sont maltraités, etc. Et c'est vrai que dans une encyclopédie, on a un petit peu cette assurance d'avoir quelque chose quand même de rigoureux.
Donc là, on vient de le voir dans la connaissance, recherche, enseignement. Est-ce qu'on peut voir dans d'autres domaines, l'art et la musique, par exemple, musique, cinéma, est-ce qu'on pourrait concevoir? Moi, j'ai l'impression que dans le cinéma, ça se fait déjà un petit peu, et dans le documentaire, énormément.
Alors, ils ont utilisé des licences particulières d'art libre ou des choses comme ça, à votre connaissance?
Non, non, non. C'est simplement, par exemple, dans le documentaire, actuellement, il est possible de trouver un tas de documentaires que des gens font à gauche, à droite, des conférences, des morceaux de films qui sont, par l'intermédiaire de l'outil Internet, donnés à tout le monde.
D'accord, mais est-ce qu'on peut en reprendre des morceaux, les réassembler et refaire une nouvelle œuvre à partir d'une...
Il y en a un certain nombre où il y a strict gérer, où c'est libre de droit, quoi. C'est marqué
ça,
libre
c'est
de droit.
C'est intéressant, les documentaires dans ce cas-là rentreraient dans ce cadre-là,
mais
de
oui,
partage de la connaissance.
C'est marqué libre de droit, au contraire, ça, le but en général, c'est de le faire diffuser un maximum, donc ça pose pas de problème.
Un des problèmes avec l'art, c'est que souvent l'artiste ne va pas vouloir qu'on modifie son œuvre sans son accord. C'est souvent une des limites et c'est souvent une des différences entre un domaine technique comme le logiciel, où on va considérer que les modifications apportées vont être des améliorations, mais par contre, dans un domaine artistique, va y avoir une attache à l'auteur, au créateur, qui a une sorte de droit divin sur son œuvre, enfin. C'est considéré souvent de cette manière-là légalement. Et donc, les améliorations, les changements ne sont pas forcément acceptés. Sauf certains domaines, le jazz auquel je pense, ça a souvent été un domaine où on reprenait traditionnellement des anciennes musiques, on les améliorait, on les faisait évoluer. Et d'après ce que j'en ai entendu dire, c'est mort à cause de la loi qui a impliqué le copyright, le droit d'auteur sur les œuvres de jazz, qui ont fait qu'on ne pouvait pas reprendre facilement une ancienne œuvre. Il fallait aller toquer aux portes, proposer de l'argent, échanger. Et que là, en ce moment, ces anciennes œuvres de jazz retomberaient dans le domaine public en ce moment ou bientôt et offriraient une possibilité de reprise. Oui, mais vous savez, avec les extensions, des fois, il y a des choses qui font que...
Et par rapport à ce que dit Emmanuel sur les différents droits que veut donner l'artiste à l'utilisateur, justement, il y a des mouvements de réflexion autour des licences art libre ou des licences Creative Commons qui permettent, en fait, à partir d'un certain nombre de droits que l'auteur veut donner aux utilisateurs, de choisir une licence qui va formaliser cet ensemble de droits. Et c'est vrai que, par exemple, il y a des sites, je pense à un site qui anciennement s'appelait musiquelibre.org, mais qui s'appelle Dogmazic maintenant, sur lequel, en fait, il y a des milliers de morceaux de musique qui sont pour la plupart, enfin pour la totalité, librement utilisables. Certains, on ne peut pas les modifier, d'autres, on peut les modifier. Certains, on peut les mettre dans des compilations commerciales, d'autres, on ne peut pas les mettre dans des compilations commerciales. Donc en fait, avec chaque morceau, on a les droits qui sont indiqués. Donc il y a un vrai mouvement dans la musique d'artistes, effectivement, qui choisissent de diffuser leurs œuvres en donnant un certain nombre de libertés, pas forcément toutes les libertés, parce qu'effectivement, comme le dit Emmanuel, certains ne souhaitent pas voir leur musique modifiée. D'autres, par contre, souhaitent que leur musique soit modifiée. Certains ne souhaitent pas que ce soit intégré dans des compilations commerciales sans leur autorisation. Donc ces gens-là sont partis de réflexion du logiciel libre en essayant d'adapter ça à... aux contraintes ou en tout cas à l'environnement de la musique. Je pense que dans le monde du cinéma c'est pareil parce que les contraintes ne sont pas forcément les mêmes non plus. Donc il y a un vrai mouvement. On peut aujourd'hui faire par exemple des soirées avec de la musique qui est simplement entre guillemets librement utilisable, c'est-à-dire sur une licence, par exemple licence Art Libre, qui est une licence qui s'inspire du copyleft du logiciel libre.
Définis un peu quand même
Le copyleft, on devait en parler, mais finalement là on a pas trop parlé.
C'est le piratage de gauche.
Non, c'est la gauche d'auteur.
C'est la gauche d'auteur. C'est une utilisation du droit d'auteur pour garantir que les versions modifiées du logiciel seront toujours sous la même licence, c'est-à-dire qu'en fait elles resteront sous une licence libre au fur et à mesure de ses évolutions.
C'est-à-dire qu'on le donne à la communauté, mais on refuse que la communauté fasse du fric avec.
On le met dans un pot commun.
Non. On refuse qu'il y ait une réappropriation. On peut faire de l'argent avec des licences copyleft, c'est du logiciel libre, mais on refuse une réappropriation par quelqu'un. Quelqu'un qui va réutiliser une licence, un logiciel qui est sous licence copyleft peut très bien le vendre. Par contre, s'il redistribue son logiciel, par exemple s'il en fait une distribution, il doit le redistribuer sous les mêmes termes que la licence.
C'est-à-dire qu'il n'aura pas le droit d'en faire un propriétaire.
Exactement.
Voilà. C'est un pot commun qui ne fait qu'augmenter.
C'est un pot commun qui ne fait qu'augmenter, mais par contre, on peut en faire de l'argent. Et donc il y a des gens qui, il y a quelques années, je crois que c'est il y a 2001, ont écrit une licence art libre qui s'inspire donc du copyleft, mais qui est un petit peu adaptée à l'art, qui prend en compte les spécificités de l'art. Et il y a de plus en plus d'artistes qui mettent leur musique, mais qui aussi mettent leurs œuvres plastiques sous licence art libre. Il y a un vrai mouvement, effectivement, qui se crée, à côté, effectivement, du mouvement traditionnel tel qu'il existe dans la musique. Donc tout ça, c'est en discussion, en conflit, quelque part, parce qu'effectivement, c'est quelque chose de relativement récent. Il y a aussi une mécompréhension importante de pas mal de gens qui pensent, par exemple, qu'on ne peut pas faire de l'argent à partir de licences, enfin, de logiciels qui sont logiciels libres ou d'art qui est en licence art libre, alors qu'on peut faire de l'argent, etc. Et je pense que ce mouvement-là va devenir de plus en plus important, tout simplement parce que ce qui a radicalement changé les choses ces dernières années, c'est la dématérialisation des procédures et l'émergence d'Internet pour de plus en plus de personnes. Il y a quelques années, il y a 20 ans, quand le logiciel libre a commencé à se formaliser avec le projet de Richard Stallman et d'autres, il y avait finalement relativement peu de gens qui étaient connectés à Internet, donc il y avait relativement peu de contributeurs. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont reliés à l'Internet et qui peuvent contribuer sur des objets immatériels. Ils peuvent apporter leur propre créativité. Et quand on permet à des gens, des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes de travailler ensemble à un projet commun, je pense que le modèle propriétaire ne peut pas lutter contre ça. Il ne peut lutter que s'il y a quelques personnes qui travaillent dans leur coin, je dirais, dans leur maison, sur un projet-là. Là, la place de travail, c'est Internet, c'est dématérialisé. Et plus en plus il y aura d'accès, plus en plus de contributeurs qui seront sur Internet et qui pourront apporter leur créativité, je pense que ça deviendra, en fait, un mouvement sur lequel on ne pourra pas revenir et qui va révolutionner beaucoup de choses. Sauf que là, on est à un moment où... d'un autre côté, il y a des acteurs traditionnels qui sont présents, les producteurs, le logiciel propriétaire, qui essayent de survivre parce que c'est leur métier de survivre quelque part. Mais je pense que fondamentalement, ils ont intérêt à changer de modèle économique où ils vont survivre quelques années, mais qu'à terme, ils vont disparaître.
Ils vont essayer d'utiliser la loi pour se garder des monopoles d'État et de fait, introduire les règles de rareté dans ce monde d'abondance pour essayer de garder l'ancien modèle.
C'est-à-dire que vous êtes simplement en train de me dire que Bill Gates va d'ici peu pointer à la NPE?
Non,
il fera autre chose.
Il va mettre.
Enfin, avant ça, il commence à faire autre chose.
Il a commencé déjà.
Avant ça, il va essayer de mettre des lois, de réutiliser simplement le système légal à son avantage. Comme si les gens qui fabriquaient les carrioles de chevaux au 19e siècle essayaient de mettre des lois pour contrer les voitures. C'est exactement.
Quand il y a eu l'imprimerie qui a existé, on a mis en place les fontes avec des droits d'accès sur les fontes pour limiter les gens qui pouvaient finalement imprimer des livres. C'est exactement la même chose. Les lois dont on n'a pas parlé, mais qu'on pourrait parler à notre émission, qui sont les brevets logiciels, les DRM, c'est-à-dire les outils de contrôle numérique, sont des lois qui visent à recréer de la rareté dans un monde d'abondance et à recréer un contrôle là où il n'y a pas de contrôle. C'est uniquement ça. Et comme ça va à l'encontre des libertés individuelles, et ça on pourrait l'expliquer, je pense que les gens vont le refuser. Et l'une des grandes forces, à mon avis, l'une des grandes chances du logiciel libre dans les années à venir, c'est que justement les logiciels propriétaires qui arrivent brident de plus en plus les libertés d'utilisateurs dans leur pratique classique, par exemple écouter de la musique de façon libre sur mettre un simple CD par exemple qu'ils ont acheté dans un magasin aujourd'hui, quand on met un CD dans un ordinateur, on n'est même pas sûr qu'on va pouvoir écouter la musique qu'il y a dessus.
C'est pire, c'est dangereux. Ça peut infecter votre PC, ça a déjà affecté des milliers, des millions de PC dans le monde, juste en mettant des CD dans un ordinateur.
La chose aussi, c'est qu'il y a la liberté individuelle, mais c'est aussi collectivement stupide. C'est-à-dire que, d'un point de vue économique, le fait de rajouter de la rareté là où il y a de l'abondance, ça profite à quelques-uns. Mais collectivement et sur l'ensemble de l'économie, c'est néfaste. C'est-à-dire qu'en fait, on appauvrit l'économie dans son ensemble. Et en fait, les types mettent la main sur le robinet et limitent les échanges et limitent l'enrichissement. C'est même pas une question de richesse, c'est une question de prospérité. Limite la prospérité générale à leur profit. Mmh. Et je trouve qu'on a finalement quelque chose qu'on pourrait comparer à la situation avant la Seconde Guerre mondiale. On avait une crise économique et on s'en est sorti en faisant des investissements, parce que les économistes appellent l'effet multiplicateur, en faisant de l'intervention et en disant créons de la demande et ça fera croître l'économie. Et ce qu'on en a eu après-guerre, c'était une période de croissance qui était la période de prospérité, sans doute la plus forte depuis le début de l'histoire de l'humanité. Et je pense qu'on a un mécanisme finalement assez proche aujourd'hui, d'avoir soit un système où on verrouille tout et où on sert le système et on essaye d'appauvrir et d'assécher, et avec une minorité qui a la main sur ce qui va rester, et qui va faire, vivre aux dépens des autres. Soit au contraire, on a un système de prospérité générale et où ça circule, et là on peut arriver vers plus de prospérité pour le plus grand nombre.
Et des questions de contrôle énormes là derrière, ça va être énorme.
On va pas tarder à s'arrêter, on va même s'arrêter parce que je vois que nos petits camarades des chroniques syndicales sont déjà arrivés. Donc je vous remercie d'être venus et puis peut-être à une prochaine fois sur Radio Libertaire, parce que je pense qu'on va ouvrir qu'une émission va avoir lieu sur Radio Libertaire un de ces quatre, pour savoir quand elle va être ouverte.
Normalement, c'est dimanche, la troisième semaine de janvier.
Voilà, c'est ça. Et ça sera indiqué dans Le Monde Libertaire au 145 Rue Amelot, il n'y a pas de problème.
On devrait commencer sur la loi d'AFSI, qui est une loi qui a été votée il y a quelques temps et qui parle de copie de musique et ce genre de choses.
Justement, rareté dans un monde d'abondance.
Voilà.
D'accord. Ben, je vous remercie d'être venu puis à bientôt.
Merci de l'invitation.
Merci.
À bientôt.
Village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène, je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi.
Je ne fais pourtant de tort à personne
en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suit une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suit une autre route que. Tout le monde me dit de moi, sauf les muets.
Ça va de soi.
Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche pas, cela ne me regarde pas.
Je ne fais pourtant de tort à personne
en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots.
Ça va de soi.
Quand je croise un voleur malchanceux poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se trouve par terre.
Je ne fais pourtant de tort à personne
en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suit une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suit une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte.
Ça va de soi.
Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur bout, ils me la passeront au cou.
Je ne fais pourtant de tort à personne
en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suit une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suit une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Bonjour, vous avez écouté Brigitte Fontaine qui chantait le nougat. Ensuite, toujours Brigitte Fontaine, le chat. Vous avez écouté le blues du chien par Louis Arty. Et là, la mauvaise réputation de Georges Brassens, interprétée par le cabaret Brassens. Je vais vous mettre encore avec Brigitte Fontaine, comme à la radio.
Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir.